se tenir à... Merci le président Yves Fournier pour son invitation. Et vous remerciez vous pour votre présence, parce que c'est vrai que j'imagine que cet intitulé de cyberguerre, quand vous l'avez vu sur le programme de l'université, même si le président m'a expliqué que des gens venaient de confiance et que leur le fait que leur souscription à l'université faisait que leur ouverture d'esprit les disposait à accueillir les sujets, quelle que soit leur robustesse, le caractère complexe ou au contraire la grande variété des thèmes. Je vous suis reconnaissant de vous être déplacé pour venir discuter, parce que l'idée de cette séquence, c'est évidemment de vous parler, certainement, mais c'est surtout d'échanger. Pourquoi ? Parce que, en tant que, dans les différentes dimensions de votre activité, vous êtes citoyen, consommateur, électeur, peut-être producteur également, dans cet univers numérisé, et donc, quel que soit votre rang, votre diplôme, votre statut social, votre état de fortune, en quelque sorte, vous êtes concerné, vous êtes partie prenante. Et ce qui va changer, on a commencé, Yves Fournier l'évoquait en introduction, des acteurs économiques, on va être dans cette économie numérique ou numérisée, pour une large part, dans une économie de l'attention. L'économie de l'attention, c'est pendant que vous êtes ici à faire cela, c'est-à-dire d'écouter et bientôt d'échanger, vous ne faites pas autre chose. Et comme a priori le temps étant encore à ce jour quelque chose de fini au sens mathématique, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez consommé, il n'est plus là, c'est une vraie illustration de l'économie, puisque je vous rappelle que la définition de l'économie, c'est la gestion de la rareté. À partir du moment où vous avez des biens en très grande abondance, il n'y a pas d'économie qui soit liée, puisque le bien n'a plus de valeur dès lors qu'il est en abondance et en surabondance. Dès lors qu'il est limité, vous avez une économie qui se met en œuvre, des prix et une confrontation de l'offre et de la demande. Et donc, pendant que vous êtes ici, vous n'êtes pas ailleurs. C'est avant le quantique, puisque le quantique vous permettrait d'être en même temps ici et ailleurs, mais ça, ce sera pour une autre de vos conférences. Et là, il faudra prendre toute l'après-midi et la faire en début de semaine, parce que c'est assez ardu. Notre thématique, c'est que, donc effectivement, vous êtes, en tout cas ce que je veux dire par là, c'est que si dans ce thème de cyberguerre, il y a effectivement quelques années, j'avais écrit un livre qui s'appelle « La cyberguerre, la guerre numérique a commencé ». Alors je me réjouis de voir que j'avais eu raison, parce que c'est toujours embêtant quand on écrit un livre et qu'on se trompe, mais enfin, je ne sais pas s'il faut se réjouir. Et il faut déjà garder ce préfixe de cyber, qui peut-être vous intrigue, puisque vous en entendez parler, enfin il peut être utilisé dans le traitement de l'actualité. Cyber, en fait, ça vient du grec. C'est amusant parce que d'habitude, on fait toujours des références à des anglicismes. Là, en fait, c'est un hellénisme. Ça vient du grec. C'est kubernēi, qui veut dire gérer, gouverner, en quelque sorte. Donc, c'est bien un préfixe grec qui nous sert à caractériser une activité, si on la qualifie de moderne, en tout cas de correspondant aux technologies telles qu'elles sont aujourd'hui disponibles. Ce principe de la guerre, c'est qu'évidemment, sauf quand on était soi-même, hélas, victime de la guerre, parce que ça se passait sur votre sol, ou que vous étiez amené à y participer en tant que soldat, en tant qu'appelé, la guerre reste, pour une large mesure, l'affaire des militaires. Et vous pourriez considérer que si... Alors, je crois qu'il y en a au moins un parmi nous, mais sinon, il y en a même plusieurs... donc des militaires, en fait, pourraient considérer qu'ils sont bien conscients de la réalité du sujet, de l'importance du sujet. Vous voyez, vous ne dites pas « je ne suis pas au courant » ou « je ne sais pas, je considère que ce n'est pas important ». Simplement, vous allez dire « c'est l'affaire de militaires ». Alors moi, éventuellement, quand je suis contribuable, peut-être quand je contribue à permettre le financement de l'outil de défense, mais je comprends que ça existe, mais ça ne me concerne pas. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ce livre que j'ai fait, qui s'appelait « La cyberguerre, la guerre numérique a commencé », je l'ai publié en 2009, donc je l'ai écrit en 2008. Et c'est vrai que quand quelques mois après, les presses universitaires de France m'ont proposé d'écrire, je ne sais pas si vous connaissez cette collection qui s'appelle « Que sais-je ?». Donc voilà. Et suite à d'autres livres que j'avais écrits, les presses universitaires de France m'ont contacté et m'ont dit « voilà, est-ce que vous accepteriez de faire le « Que sais-je » sur le sujet ?». Et donc, de manière assez automatique, il m'avait dit « on va le faire sur la cyberguerre ». Et ce que j'avais appris, ou en tout cas de ma confrontation, quand, vous savez, quand vous vivez, quand vous écrivez un livre, en fait, on vit avec un moment, enfin, le plus longtemps possible, ça veut dire qu'il a une actualité, qu'il a une pérennité. Et donc, voilà, vous en mangez un peu matin, midi et soir. Mais donc là, je vis depuis quelques mois avec frontières.com, quelques semaines. Et en fait, des confrontations que j'avais eues, c'est-à-dire avec des responsables politiques, gouvernementaux, avec des états-majors, avec des universitaires, etc., je m'étais aperçu à l'époque, 2008, que quand j'évoquais ce sujet de la cyberguerre, ils m'écoutaient, poliment. Simplement, assez vite, ils me disaient je comprends que ça existe. En clair, que les femmes, que les hommes se tapent dessus régulièrement, on peut le concevoir, ça, manifestement, depuis Carré et Abel. Ça ne me concerne pas, parce que moi, je suis dentiste, je suis garde-barrière, je suis boulanger, je suis du monde civil. Et si même vous arriviez à me convaincre que ça me concerne en tant que cible, si c'est opéré par un service de renseignement, par un état-major militaire, je n'y pourrais rien. Je subirais et j'attendrais que ça passe. Donc je comprends que ça existe, mais ce n'est pas vraiment un sujet pour moi. Et étant convaincu de l'opposé, enfin de l'opposé de cette situation, je me suis dit, quand les presses universitaires de France m'ont dit « est-ce que vous pourriez faire un livre petit format, petit budget, pédagogique ?» Je leur ai dit, je ne vais pas l'appeler cyberguerre, je vais l'appeler cybersécurité. Pourquoi ? Parce que l'idée étant de se dire que la sécurité est quelque chose qui, en tant que, et là je reviens dans les différentes dimensions, de citoyen, consommateur, électeur, salarié, entrepreneur, agent public, toute dimension, on est concerné par l'état de sécurité. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, quand on a commencé à creuser le sujet, le monde, à cette époque, et peut-être moins aujourd'hui qu'il ne l'était hier, était un monde structuré. Le monde civil, l'univers militaire, la notion de paix, la notion de guerre, on faisait une déclaration de guerre. Il y avait un formalisme pour faire une déclaration de guerre. Quand la guerre était finie, soit parce qu'il y a un camp qui avait gagné globalement, on pouvait faire une armistice, on pouvait faire un traité de paix, et puis on faisait un défilé, un peu comme dans les, vous savez, la dernière image des albums d'Astérix, où ça se termine par un banquet. Vous savez que l'album est terminé parce qu'on s'est affronté manifestement, parce qu'il n'y a pas de bon album d'Astérix et Obélix où on ne se soit pas un peu tapé dessus, bon, moi avec des Romains. Et puis, en fait, au final, ça se termine, il y a un banquet. Là, vous dites, ça y est, c'est bon, là, on a clos la séquence. De la même manière que si, hélas, on était dans une période de guerre, dans la période de guerre, on pouvait savoir ce qu'était un front, le front où se déroulent les conflits, et des gens qui reviennent à l'arrière. L'arrière, en quelque sorte, ce qu'on a conceptualisé au moment de la Première Guerre mondiale, le principe de Noria, vous avez des gens qui sont au front, ils combattent, et à un moment, soit parce qu'ils sont blessés, soit parce qu'ils sont fatigués, soit ils viennent à l'arrière, ils se reposent, et hop, vous retournez au front. Alors le front peut bouger, le front peut être mobile, mais il y a un front. Il y a un état de paix, il y a un état de guerre. Il y a des populations civiles et des populations militaires. D'ailleurs, le droit des conflits armés, ce qu'on appelle le DCA, a codifié le droit de la guerre. C'est-à-dire qu'on aurait pu considérer que l'être humain n'aurait pas dû faire la guerre, mais dès lors que soit il ne peut pas s'en empêcher, soit il considère que c'est une composante de son activité, on a dit « attends, on va faire des règles ». Alors on a fait le droit de la guerre. Alors, globalement, dans le cas des Nations Unies, vous avez des conventions de Genève, notamment, des conventions de Genève, sur le droit des conflits armés. Donc on a dit « ça, c'est une population civile. Il y a des choses qu'on peut faire à une population civile, des choses qu'on ne peut pas faire. Ça, c'est des militaires, il y a des officiers, il y a un traitement pour les officiers, etc. » On a fait une espèce de nomenclature du droit de la guerre. Et donc, à contrario, de l'état de paix. Et au final, le monde a fonctionné bien ou mal, mais il a fonctionné selon cette règle-là. Ce que va changer l'avènement, ou en tout cas l'arrivée d'une cyberguerre, d'une guerre numérique, c'est qu'en fait, on va sinon balayer, rendre poreux, toutes les distinctions entre ces différents univers. Et d'ailleurs, on va s'appeler, et pour certains d'entre eux, moi j'ai eu le privilège, donc pour vous expliquer à peu près ce que je fais, je travaille dans le domaine opérationnel de la cybersécurité, c'est-à-dire pour protéger des entreprises, des administrations, des collectivités. Je suis actuellement le directeur de la stratégie d'un grand groupe mondial qui est le spécialiste de l'analyse technique des cybermenaces, qui s'appelle Trendmicro, c'est une entreprise qui est d'ailleurs fondée par une femme qui est à la fois sa directrice technique et sa présidente, qui est une entreprise qui a une trentaine d'années et qui fait à peu près, je donne les ordres de grandeur pour que vous ayez les chiffres, 7000 personnes dans le monde et à peu près 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui est une entreprise spécialisée dans l'analyse de la cybermenace et l'analyse technique. Et En parallèle de cela, je suis amené à enseigner à l'École nationale supérieure de la police sur les formes de criminalité, à l'École de la magistrature. Et également, a été créé au sein d'un institut d'études politiques des enseignements sur la stratégie dans cet univers-là. Et également, ça nous sert, et d'ailleurs, un des diplômes auxquels on contribue, dans lequel j'enseigne, qui est fait au sein de l'Institut d'études politiques, et justement avec l'Académie du renseignement, c'est-à-dire l'école faite par l'État français pour ses différents services de renseignement, le renseignement intérieur, les GSI, le renseignement de type technologique, comme la direction du renseignement militaire, qui cherche à intercepter des messages à l'échelle planétaire, la protection des forces armées, donc la DRSD, et puis la DGSI, la sécurité intérieure, qui est un service d'espionnage et de contre-espionnage. L'idée étant de comprendre pourquoi, parce que dans cet univers, qui est celui de votre quotidien, vous avez certainement, pour la plupart d'entre vous, un téléphone portable dans la poche, vous êtes donc une des parties prenantes de... Vous aviez une frustration et un manque de son... Non. Donc il faut juste que je parle plus doucement maintenant. La question était que, effectivement, on a cet univers où, avec votre connexion, votre téléphone portable, votre connexion à la maison, éventuellement d'un ordinateur fixe, vous êtes une des composantes de cet univers-là. Dans cette approche, on va toujours distinguer deux environnements. Le premier environnement, ça va être, pour faire simple, les tuyaux, les infrastructures, les équipements. En clair, c'est de faire en sorte que l'électricité fonctionne, que quand vous consultez votre compte bancaire, que vous puissiez bien vous connecter à votre compte bancaire. Pareil pour un état-major militaire, une administration, une collectivité. Et donc, un des sujets importants va être d'assurer la protection des tuyaux, des équipements, des infrastructures, qui peuvent être physiques, ça va être le cas de nos câbles, ça va être le cas des connexions Internet qui permettent justement que ce soit des satellites ou de la fibre que vous avez au bas de votre immeuble, qui permettent de connecter et surtout d'interconnecter les organisations, les particuliers, les entreprises, les administrations et les collectivités locales. Donc, on va avoir une problématique de comment je fais en sorte de protéger ces tuyaux. La seconde dimension, ça va être les contenus. Faire en sorte que ce qui transite, ce qui circule par ces systèmes, soit protégé. Et si on devait résumer les trois composantes de cette cybersécurité, elles sont au nombre de trois. La première, ça va être de veiller à la disponibilité des systèmes. La disponibilité, c'est quand j'appuie sur l'interrupteur, il faut que ça s'allume. Quand j'appuie sur mon téléphone, il faut qu'il s'allume. Quand je demande à la centrale électrique d'envoyer du courant, il faut que ça fonctionne. C'est la disponibilité. Voilà. Mais ça peut être aussi bien un site internet. Vous voulez visiter le site internet de l'université. Il faut que, quand on s'y connecte, il fonctionne. Et vous voyez bien qu'un attaquant criminel, étatique, pourrait... Son but, c'est de faire en sorte que quand vous allez essayer ou vous espérez que le système fonctionne, que quand le bouton est actionné, il fonctionne, ça ne fonctionne pas. Donc il va tenter d'attenter à la disponibilité des systèmes. Deuxième péril, la question de l'intégrité. Intégrité, c'est que quand sur votre compte bancaire, normalement, il doit y avoir 10 000 euros, faire en sorte qu'il y ait bien ces 10 000 euros. Et que quelqu'un n'ait pas modifié, ah, oups, il n'y a plus que 9 000 euros. De la même manière que si c'est une base de données qui peut être votre état sérologique, qui peut être une recette de fabrication d'un procédé industriel, quand il faut fabriquer sur une chaîne de production un outil ou un produit, si on a prévu qu'il doit y avoir tel dosage, tel grammage, tel poids, telle composante, une recette comme une recette de cuisine, si quelqu'un en amont a modifié la recette, soit vous allez faire un produit défectueux, voire un produit dangereux. Donc la question de l'intégrité va être très importante. On va la trouver également dans des systèmes de pilotage. Si votre voiture est pilotée avec un système de GPS, comme ça peut être le cas pour la plupart désormais des modèles modernes, si quelqu'un peut prendre le contrôle sur l'intégrité des données, Vous voyez bien que vous vous conduisez, simplement vous n'arriverez jamais à destination. Ou alors vous arriverez tardivement. Si l'intérêt de l'attaquant, c'est que vous arriviez, mais plus tard, il va vous balader. Et s'il est que vous n'arriviez jamais, enfin jusqu'au moment où vous voyez, vous réalisez que vous êtes perdu, eh ben, il va faire en sorte vraiment de vous balader et que vous n'ayez plus d'essence dans la région où il vous emmènera. Alors ça, ce n'est pas une anecdote, puisqu'on a assisté à des piratages de bateaux de commerce, avec du fret, qui ont été piratés comme ça. C'est-à-dire, en fait, les pirates au sens de vraiment les pirates, cherchent à prendre le contrôle du bateau, simplement de se dire, oh là là, prendre le bateau en pleine mer. Parce qu'en général, quand vous êtes un pirate comme ça, vous n'êtes pas forcément des grands marins. Et donc, à raisonner un bateau en pleine mer, c'est compliqué, c'est dangereux, c'est aléatoire. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que mieux qu'on l'amène au village, sur notre terrain. Donc, en prenant le contrôle du système de pilotage du bateau, en fait, le commandant, qu'est-ce qu'il fait? Il suit les instruments de bord. Le relief, c'est compliqué, il se peut pas. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Ils amenaient le bateau dans une rade, dans une anse, parce que ce n'est pas une rade construite, c'est en général, effectivement, dans des endroits exotiques. Et bien là, vous prenez d'assaut le bateau. Puisqu'en fait, vous faites ça à l'ancienne. Enfin, vous attaquez, eux, ils ne s'y attendent pas, vous êtes très nombreux et vous attaquez le bateau. Et effectivement, on a vu des piratages de bateaux, je parle en début du XXIe siècle, mais avec des vieux. Simplement, au lieu d'attaquer en haute mer comme dans les Astérix, toujours, vous savez, où ils attaquent, ben là, en fait, ils se sont dit, il faut mieux faire venir le bateau à nous. Vous voyez, c'est la combinaison du moderne et de l'ancien. Voilà, ils ont adopté les deux choses. Donc, on a bien cette problématique de la disponibilité. C'est-à-dire que, pardon, de l'intégrité. L'intégrité, c'est effectivement, c'est bien gentil de fonctionner sur un outil technologique, mais est-ce que ce que je manipule comme données, est-ce que ça correspond réellement? Est-ce que quelqu'un n'est pas venu le modifier, l'altérer, etc. Mais ça peut être, par exemple, une base de photos, ça peut être une base de tout type d'informations numérisées. Est-ce que quelqu'un ne l'a pas modifié? Alors, c'est facile quand vous avez un petit nombre de données, parce qu'en les regardant, je sais pas, c'est comme si vous aviez une bibliothèque avec 10 ouvrages. Vous pouvez savoir si les 10 ouvrages sont là, et s'il y a bien 10 ouvrages, et si c'est bien les 10 bons ouvrages de la bibliothèque. À partir du moment où vous avez des milliers de rayonnages, est-ce que quelqu'un en a modifié, en a retiré un, on a ajouté un, on a modifié à l'intérieur d'un livre? Alors vous pourriez dire c'est pas grave, mais il n'empêche que, comme disait George Orwell, brillant auteur de notamment de 1984, il a cette phrase dans 1984 en disant effectivement, celui qui maîtrise le présent a le pouvoir de modifier le passé. En clair, quand vous commencez à vouloir pouvoir modifier des bibliothèques, des livres d'histoire, et comme le dit Orwell dans la citation complète, il dit personne qui a pouvoir du présent peut modifier le passé, et en modifiant le passé, il aura le pouvoir sur le futur. Parce que si moi je vais voir le président Fournier en disant « Vous avez ce que le précédent président a dit de vous, etc. » et que je lui apporte des documents qui attestent de quelque chose, on ne sait pas. On ne l'a pas revu récemment, mais on ne sait pas. Et donc, pour mon anecdote, j'ai besoin qu'il soit là. Et donc, à ce moment-là, il va se dire « Ah bah oui, et là vous avez bien des documents anciens qui vont servir à nourrir une querelle future. » Et donc, c'est très important d'avoir effectivement cette maîtrise de l'intégrité des systèmes. Troisième et dernière composante, c'est la confidentialité. Quand vous avez des échanges de communication, de correspondance, c'est-à-dire un secret des correspondances, quand vous avez un dossier médical, un secret des affaires, un secret professionnel, l'histoire humaine a montré que la confidentialité pouvait être un vecteur de stabilité, un vecteur de paix sociale. Voilà, le fait de dire l'intimité des correspondances était un élément de... En tout cas, on considère que c'est quelque chose par rapport à des sociétés de totale transparence, un vecteur. Donc la question de la confidentialité, qui peut être levée après, la confidentialité pouvait rendre publique des choses, mais que le principe même de confidentialité existe, est un élément important. Et c'est d'autant plus important que quand des gens communiquent avec des informations dites à valeur ajoutée, alors qui peut être, vous voulez savoir ce que votre belle-sœur pense de vous, ou vous voulez savoir quelle est la recette du Nutella, chacun souhaite attenter au secret des correspondances qui l'intéresse, effectivement, on va s'apercevoir qu'il y a un appétit très humain. Vous l'avez peut-être vu il y a quelques mois, lorsque est sortie dans la presse une affaire qu'on appelle Pegasus. Pegasus, c'est l'accusation qui a été lancée par un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement d'écoute de leur téléphone portable personnel. Alors Pegasus, c'est le nom du logiciel utilisé. Et C'est tout à fait prévisible que le téléphone portable soit la cible de piratage. Pourquoi ? Parce que le téléphone portable, c'est le seul équipement qu'un dirigeant ou qu'une dirigeante politique, économique, diplomatique, militaire, utilise seul. Un chef d'État, un ministre, ça fait des années qu'il n'a jamais conduit de voiture. Il ne fait pas son café tout seul. Le seul équipement qu'il utilise seul, c'est son téléphone portable. Ça lui permet de gérer sa vie personnelle, même intime, sentimentale. Ça lui permet d'interagir avec ses homologues quand il veut mener des discussions, des négociations. Si à un moment il a quand même des problèmes très intimes de santé, ben ça va se traiter là, c'est là où il va interagir, c'est ça. Et là, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Et donc, quand vous êtes dans un service de renseignement, quel est le rôle d'un service de renseignement ? Se renseigner. Voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois on s'émeut, on dit quand même, les services de renseignement l'ont espionné, c'est pas bien. Ben si, ben non. C'est naturel. Enfin, si vous, moi, en tant qu'on est contribuable, si on paye un service de renseignement qui n'espionne pas, c'est de l'emploi fictif. Voyez, la faute, c'est de se faire prendre. Ah, ça, c'est pas bien. Là, on s'excuse, on dit ah, voilà, c'est une initiative, un excès de zèle. Donc, effectivement, et quand on a, il y a quelques années, évidemment, comme on dit toujours, est-ce que le général de Gaulle aurait eu un téléphone portable ? Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, les circonstances n'étaient pas les mêmes. Puisque quand il communiquait dans le cadre de ses fonctions de chef des armées et de président de la République, il y avait tout un protocole avec des salles du chiffre. Dans les ambassades, vous avez la salle du chiffre, qui est l'endroit où on communique de manière sécurisée, selon un protocole complexe, robuste, mais qui est formaliste, pour le moins. À partir du moment où on est passé de ça au téléphone portable... Bah, évidemment, c'est un vecteur alors, formidable d'émancipation. Et donc, on se retrouve avec un téléphone portable, et je reviens à mon propos du début, qui est celui que le même que vous avez dans votre poche. C'est pas un téléphone... Alors, il existe des téléphones de haute, protégés, simplement dès lors que l'autorité, comme on dit, ne l'utilise pas, c'est un peu vain. Voilà. Donc, on va se retrouver dans un univers où on va rapprocher des mondes avec toujours cette quête, comment je peux attenter à l'intégrité, à la disponibilité et à la confidentialité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans une espèce de courbe où on envisageait que ça ne concerne au début, si vous êtes amateur de romans d'espionnage ou de films James Bond, d'ailleurs, vous aviez dans James Bond un Mr. Q. Vous savez, Mr. Q, c'est le monsieur, gadget, quand James Bond arrive au siège... des services secrets britanniques, et voilà, vous avez Mr. Q, la séquence dans chaque épisode de James Bond, où il vient montrer, alors tu vois, la mallette qui fait ceci, le stylo qui fait cela, la voiture. Et évidemment, il faut de la technologie. Simplement, jusqu'à présent, dans un monde conventionnel, la barrière technologique, elle était technique et financière. C'est-à-dire que vous aviez un équipement, un service de renseignement, c'était un truc extrêmement élaboré d'un point de vue technique, et donc extrêmement coûteux. Et donc, on pouvait vous faire des présentations, des démonstrations, mais votre capacité à envisager de bénéficier de cet outil dans votre vie quotidienne était très théorique, était même impossible. C'était vraiment bon. Là où on est dans un monde de porosité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des outils d'une puissance, d'une performance qui, jusqu'il n'y a pas si longtemps, était l'apanage des services de renseignement. Et je dis c'est pas si longtemps parce que si on prend les tragiques attentats de Paris de 2015, c'est posé a posteriori, enfin dans l'enquête qui a suivi, donc 2015, c'est hier, ah, vraiment, c'est hier. L'usage et la loi sur le renseignement a posé la question d'outils numériques d'investigation confiés à des services d'enquête ou à des magistrats dans le cadre de la lutte antiterroriste. Donc la matérialité de l'acte terroriste, on ne pouvait pas en douter, on avait eu les attentats de Paris, donc c'est posé la question de très bien comment on pourchasse les méchants, et donc on va, dans un monde numérisé, interconnecté, trouver des outils. Et c'est vrai que dans les outils qui vont permettre de géolocaliser quelqu'un, où est-il ? Et quand je dis géolocaliser, il n'est pas à Chalon, à la maison des syndicats, il est 17h12, il est à 17 de la rue des Acacias, et il tourne à gauche sur la rue Nicéphore-Niépce, j'imagine. Vous avez bien une rue Nicéphore-Niépce quand même. Même une avenue, un boulevard peut-être. Non ? Et effectivement, il va avoir un suivi qui est possible avec le téléphone portable. Si vous avez, prenons une anecdote toute simple, si vous avez un téléphone portable Android et que vous avez laissé la géolocalisation, vous pouvez demander à Google de vous communiquer votre historique de géolocalisation. Ah, Vous allez voir que c'est d'une... Alors, vous êtes tous des éminentes personnalités, donc vous ne serez pas surpris qu'il existe une recension de vos déplacements, mais vous allez quand même voir que, quels que soient les individus que vous êtes, ça marche avec vos enfants, vos petits-enfants, etc., il existe une base de données, si vous avez laissé la géolocalisation de votre téléphone, qui recense, sur les dernières années, l'intégralité de vos déplacements. D'ailleurs, il enregistre même quand vous prenez l'avion, parce qu'il voit bien que vous allez très vite et que vous arrivez à un autre endroit, donc il va vous dire que là, a priori, vous avez pris l'avion. Et donc ça, il est capable de vous reconstituer vos trajets en avion. Et ça, avant, on disait la fameuse phrase « on ne va pas mettre un policier derrière tout le monde, etc. C'est pas possible, qui suis-je pour qu'on me surveille, etc. » Et là, aujourd'hui, la fonctionnalité existe. Deuxième fonctionnalité que je vous encourage à faire, vous allez sur vos, si vous avez un compte, ou si vous utilisez Google, ce qui peut arriver, puisque je crois que c'est 96% de la population française, vous avez la possibilité de demander à Google, il y a un petit formulaire qui est très accessible, très simple. Vous allez lui dire « Bonjour, monsieur Google, je souhaiterais avoir mes 5 ans... » Alors, c'est ce que Google vous rend de disponible. Vos 5 ans de recherche. 5 ans. Alors, vous écrivez à Google. Alors, rassurez-vous, vous n'avez pas à attendre 15 jours. Ne veillez pas auprès de votre boîte aux lettres. Hein, quasiment par retour de mail, vous allez recevoir vos... Déjà, vous voyez qu'ils n'ont pas mis 10 ans à aller chercher ça aux archives avec un monsieur avec des manches de lustrine, avec un crayon sur le nez, en disant « Oula, vous allez rechercher les... » l'archive du président Fournier, ça va être tout un bazar. Non, non. Retour de mail. Hein. C'est micro... Enfin, je ne vais pas vous survendre le truc, parce que si ça met une minute, je m'en voudrais, mais c'est retour de mail. Et là, vous avez vos 5 ans de recherche. Donc, il y a quelqu'un... Alors, je répète, vous êtes toutes d'éminentes personnalités, donc c'est tout à fait normal qu'on dise... Mais il y a quand même quelqu'un... Enfin, pardon, ce n'est pas une vraie personne, mais une structure qui conserve 5 ans de vos recherches. Et... Peut-être que vous faites partie de ces gens-là, quand ils ont leur téléphone à la main en permanence ou pas loin, vous tranchez beaucoup de choses du quotidien avec votre téléphone. Le président me demandait « Est-ce que Johnny Hallyday est plus vieux qu'Eddie Mitchell ?» Ça a été notre sujet du déjeuner. On ne savait pas. On est allé le chercher. Google. Je ne vous donne pas la réponse, vous irez la chercher. Mais on avait, vous voyez, des vrais sujets politiques, un peu engagés. On a parlé de vrais sujets. Et donc... Tous ces petits sujets du quotidien qui veut dire « Tiens, j'ai une plaque rouge, est-ce que c'est grave ?» Tiens, comme d'ailleurs vous avez une dame qui, vous avez vu, a été interpellée dans son historique, parce qu'elle a découpé un de ses contemporains à la feuille de boucher. Et il s'avère que dans ses recherches préalables, elle avait comment découper quelqu'un à la feuille de boucher. Et ça a été un des éléments évoqués par les enquêteurs de dire « Ah bah si, quand même, vous voyez, vous êtes documenté. » Alors, c'était pas l'élément de preuve essentiel, mais ça a contribué au faisceau d'indices. Bref, on a cette information-là. Et donc, il n'y a pas de rang... Alors, c'est pas que personne n'est important, c'est que tout le monde devient important dans ces sujets-là. Et donc, évidemment, on va se retrouver dans un univers où, dès lors que nous avons des collectivités qui sont numérisées et surtout interconnectées, on va faire en sorte, quand on veut accéder à un point de destination, on veut obtenir un objectif, peut-être, quand je dis peut-être, c'est une formule de langage, de dire, on ne va pas s'attaquer à la citadelle en direct, on va essayer de trouver un cheminement. Et c'est là où chacun, en tant que, quel que soit son grade, son âge ou sa position sociale, peut être un vecteur d'infection. Je prends un exemple, il y a quelques années de cela, on était entre les deux tours, avant le premier tour d'une élection présidentielle en France, et vous avez on a assisté au piratage de l'intranet, donc le système de messagerie du Palais de l'Élysée, la présidence de la République française. Et donc des investigations, il s'avère que on n'a pas pu empêcher l'intrusion, mais. L'idée, après, on a fait ce qu'on appelle l'analyse post-mortem. Une fois que c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de comprendre comment ça s'est passé. Et vous croyez vraiment? On fait un vote? Oui, non? C'est mieux maintenant? Oui, voilà. Oui, parce qu'il y a l'Assemblée générale bientôt. Donc attention, les votes, tous les votes comptent. Ah, moi, j'ai l'impression que ça siffle. Plus on se rappelle, plus ça siffle. Mais oui, hein, il me semble aussi. Mais... donc, on en était... Oui, pardon, la présidence de la République. C'est un test, en fait, pour voir si j'ai un raisonnement qui se suit. Donc, la présidence de la République est piratée. Comment a procédé ce service de renseignement allié de la France? Je dis ça allié de la France, puisque maintenant, nous savons qui c'est. Hein, donc, ce sont nos amis américains. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? Les services de renseignement américains qui voulaient rentrer dans le cœur de l'appareil d'État français, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Au lieu de s'attaquer au système de communication complexe, bon, en tout cas peut-être compliqué, en fait, ils sont allés alors, sur un site qui est extrêmement confidentiel, qui s'appelle legifrance.gouv.fr. Vous savez ce que c'est ? C'est le site du journal officiel. Oui, mais quand même, il faut le connaître. Enfin, vous, voyez, bon. Vous le cherchez, et là, vous cherchez collaborateur du président de la République, puisque vous savez que pour être nommé... pour éviter les emplois fictifs, maintenant, pour être officiellement membre d'un cabinet ministériel, il faut que votre nom soit publié au journal officiel. Donc, on va sur Légifrance, toc, j'ai la liste des collaborateurs du président de la République. Cette liste, vous la prenez, pour les plus informaticiens d'entre vous, vous appuyez sur une touche qui s'appelle CTRL-A, et ça sélectionne, vous faites CTRL-C, ça copie, et hop, et CTRL-V, vous la copiez dans Google. Vous voyez, là, je vous donne des trucs de service de renseignement, un truc un peu... C'est du métier. Hein. Bref, vous retrouvez les gens qui ont un compte Facebook. C'est ce qu'a fait, vraiment, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Donc, une fois que vous avez trouvé les comptes Facebook des collaborateurs du président de la République, vous regardez, comme la plupart d'entre eux sont d'accès libre, vous regardez leur centre d'intérêt. L'un, il fait les chats, l'autre, il aime les voitures de course, troisième, les montres de collection. Enfin, vous voyez ce qui fait le sel de leur existence. Donc, vous savez que si, a priori, vous leur écrivez des trucs qui correspondent à leur centre d'intérêt, peut-être bien qu'il y en a un qui va cliquer sur le lien ou télécharger la pièce jointe que vous allez mettre. Eh bien, vous avez votre liste, go, hein, en avant. Bon, il semblerait que ça a procédé à fonctionner, puisqu'il y a bien quelqu'un qui a cliqué sur un lien. Alors évidemment, il avait commis une erreur, enfin, pardon, une faute, mais bon, c'est qu'il utilisait sa connexion à son compte Facebook à partir de son ordinateur professionnel. Ça, c'est péché, mais plus on monte dans la hiérarchie, moins c'est grave, enfin, semble-t-il. En tout cas, c'est moins, c'est sanctionné. Donc, et effectivement, s'il n'avait pas commis cette faute-là, la fin de l'histoire aurait été différente. Bref, cette personne a tort. Donc, voyant effectivement le super message qui correspondait à ses centres d'intérêt, a cliqué dessus en étant tout content d'avoir ça. À ce moment-là, ça a infecté l'ordinateur professionnel. Mais c'est une infection qui a vocation à être la plus discrète possible. C'est comme quand vous regardez par-dessus l'épaule de votre voisin. Voilà, l'idée c'est je dérange pas, parce que soit il va écrire des choses fausses pour vous tromper, soit il va arrêter d'écrire, soit. Donc là, il faut créer pour juste. Vous êtes là juste pour espionner en créant le moins de perturbations possible. Donc, le collaborateur du président, après avoir fini de naviguer sur Facebook, s'est remis à travailler quand même à un moment. Et donc s'est reconnecté à l'intranet de l'Élysée. Donc l'intranet, c'est qu'est-ce que c'est ? Vous avez une petite interface où il faut mettre un identifiant et un mot de passe. Donc il a mis son identifiant et son mot de passe pour se connecter. Et comme l'ordinateur était vérolé, l'espion a été capable de récupérer l'identifiant et le mot de passe. Donc il a pu se reconnecter ultérieurement en endossant l'identité du collaborateur du président. Voilà. Donc vous voyez que pour mettre ça en place, c'est pas très... Alors il faut après avoir le logiciel, il faut avoir la chance que vous ayez quelqu'un qui est les deux, mais la chance fait partie du talent. Mais en tout cas, on n'est pas sur des moyens de haute intensité en termes de compétences technologiques. Pourquoi ? Parce qu'on est typiquement, et c'est pour ça que, quand j'évoquais, on est dans un monde qui va être de plus en plus poreux entre les univers civils et les univers militaires. Et c'est d'autant plus poreux que les univers vont venir se recouvrir l'un l'autre. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des intérêts purement diplomatiques, des intérêts purement militaires, quand il s'agit d'occuper un territoire parce que vous redoutez qu'un adversaire se positionne à cet endroit qui est un point haut par rapport à votre géographie à vous. C'est le plateau du Golan en Israël. Enfin, quand vous êtes allé là, quand vous regardez la géographie, vous vous dites « Ah bah oui, ils sont obligés, enfin pas ils sont obligés, mais on comprend d'un point de vue tactique pourquoi est-ce qu'ils sont au-dessus, parce que vous avez un promontoire, c'est au-dessus, et donc l'idée c'était pour éviter qu'on leur tire à partir du territoire qui est au-dessus. Enfin, voilà. Bon, dans cet univers-là, on va être de quelque chose de beaucoup plus diffus, de beaucoup plus par nature dématérialisé. Et donc c'est vrai que la question qui va se poser, c'est de dire je vais pouvoir utiliser cette expertise vis-à-vis d'alliés ou de partenaires. Là où dans le monde militaire conventionnel, vous n'auriez pas franchit des frontières parce que c'est un acte d'hostilité manifeste, semble-t-il. Par contre, il s'avère que des pays qui sont alliés politiques pour un certain nombre de sujets, diplomatiques pour un certain nombre de sujets, sont par ailleurs des concurrents dans l'univers économique, fiscal, social. Économique, ça veut dire que globalement, aujourd'hui, un chef de majorité politique dans un pays démocratique n'est pas battu aux élections suivantes pour des raisons de politique étrangère. Il n'y a que Jacques Chirac qui croyait que ramener des otages entre deux tours d'élection présidentielle allait le faire gagner. Il n'a jamais gagné comme ça. Le Français, nous ne sommes pas manifestement très sensibles à la grande performance de sujets diplomatiques ou géopolitiques. Non, ce qui va faire qu'un homme politique ou une femme politique dans un pays démocratique est élu, réélu, est-ce que la croissance économique est là? Est-ce que l'emploi est là? Est-ce que les montants de retraite sont satisfaisants? Est-ce que les salaires... Voilà, c'est l'économie et le social qui tient la réélection d'un pays démocratique. Et donc, moralité, vous avez donc des pays démocratiques qui vont se retrouver en concurrence les uns avec les autres. Quand un emploi est créé de notre côté du Rhin, M. Macron est content. Quand c'est de l'autre côté du Rhin, M. Olaf Scholz est content. Quand c'est un impôt est payé de notre côté du Rhin, Macron est content, quand c'est de l'autre côté, M. Scholz est content. Pourtant, même si vous avez compris que le couple franco-allemand n'existait pas, que c'était une fiction française, mais qu'on est quand même alliés, en principe, pour beaucoup de choses. On est des démocraties, on a des alliances. Mais il n'empêche que quand, à un moment, ça se décide, et d'ailleurs, on le voit très bien quand M. Scholz va à Pékin, à un moment, il vous dit, c'est pas pour la diplomatie, c'est pas pour les... Simplement, il dit, on était gentil, mais moi, j'ai des matières premières, j'ai mes débouchés industriels, j'ai mes emplois... Et Macron qui dit, est-ce que je peux t'accompagner? Non, t'es gentil, mais j'y vais tout seul. Mais je croyais qu'on était... Oui, mais non. Vous voyez, la notion de ami, on est à couple et tout ça. Mais pourquoi? Parce que les intérêts... Alors que sur les intérêts diplomatiques, de haut diplomatique, on est alliés, on est concurrents. Enfin, je veux dire, l'Allemagne n'est pas un adversaire, au sens de politique du terme. Donc, c'est ce qui fait que les États, même qui d'habitude sont alliés entre eux, comme c'est le cas des États européens... Dans notre univers cyber, vont veiller à garder une expertise nationalement. Super mutualisation, c'est pas ça. Alors que, par exemple, vous avez beaucoup de pays européens qui ont réduit à minima leur capacité de défense nationale parce qu'ils ont dit « moi, je cotise à l'OTAN ». Voilà, je transfère à l'OTAN, voilà, moi je fais toi, et je paye mes enfin je paye ma cotise, je mets mes trucs, je mets mes officiers, je considère que la défense, je le mets là-haut. Voilà. Et donc, je le confie à ça. Et c'est un choix stratégique, qu'on peut discuter, mais c'est comme ça. Dans le domaine de la cyber, la notion de la mutualisation, pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu, déjà, alors, il y a le premier contexte, c'est que les ressources sont rares. Parce que ce sont des ressources, quand je dis les ressources, c'est les femmes et les hommes. Les personnels compétents sont rares. Et comme ils sont rares, vous ne pouvez pas les disséminer dans la nature. Deuxièmement, vous avez intérêt à vous dire, oui, d'accord, mais si mon super allié, c'est ce que nous avons appris il y a quelques années avec tristesse, le gouvernement français a appris que l'Allemagne espionnait le gouvernement français. Donc, tu me fends le cœur, on a fait tout le truc. On n'a pas déclaré la guerre à l'Allemagne, mais on l'a dit à Angela, à l'époque c'était Angela Merkel, quand même, ça se fait pas, on est amis, etc. Angela Merkel n'était pas très à l'aise, pourquoi? Et elle était d'ailleurs un peu énervée, et nous, en tant que Français, on n'avait pas compris pourquoi elle était énervée. Enfin, vraiment, parce que je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, c'était au même moment où on a appris que son téléphone portable personnel était espionné par les Américains. Et nous, en tant que Français, on a dit, nous, les Américains, ils nous espionnent depuis toujours, donc pourquoi t'es surprise? Enfin, il y a un côté un peu ravi de la crèche, quoi. Et ce que nous avons appris, parce qu'a appris la communauté internationale, c'est qu'en fait, les Allemands avaient négocié un truc, c'est-à-dire que les Américains étaient allés voir les Allemands en disant, si vous espionnez les Français pour nous, nous, on s'engage à ne pas vous espionner. C'était ça le deal. Donc en fait, Angela, pourquoi elle n'était pas contente? Parce que quand il a été révélé que son téléphone était espionné, c'est que les Américains lui avaient fait à l'envers. Enfin, en tout cas, n'avaient pas tenu. Il n'y avait pas eu de cohésion totale des services de renseignement, manifestement, parce que quelqu'un aux États-Unis avait... Donc, elle disait, vous rendez compte, vous me mettez en porte-à-faux vis-à-vis de mes amis français, parce que vous montrez que je les espionne, et en plus, vous vous moquez un peu de moi. Alors, en allemand, c'est plus aimable, mais vous vous moquez de moi parce que... Bon, et effectivement, ça a été un des sujets. Et donc, on voit bien que la notion d'allié dans un univers numérisé est problématique. En tout cas, les problématiques, elles ne correspondent pas au cahier des charges tel qu'on les avait jusqu'à présent. C'est pour ça que ce sont des formes d'affrontement qui sont militaires, certes, mais pas que. Pas seulement. Pas seulement, elles vont être économiques, sociales, fiscales. Est-ce que quand j'ai tel pays entreprise qui, pardon, quelle entreprise qui s'installe dans mon pays, ben, ça devient un lieu d'attractivité et donc de compétitivité. Le Luxembourg, l'Irlande sont manifestement des pays très enclins à recevoir notamment les grands acteurs du numérique avec... Alors on est toujours le paradis fiscal de quelqu'un, certes, mais voilà. Et donc on se retrouve dans un univers où les notions d'alliance vont être compliquées. C'est-à-dire qu'il va falloir, vous ne pouvez pas, enfin de moins en moins, être dans l'idée de dire « mais c'est pas grave, je me départis de mon expertise et je la mutualise, je la mets en commun ». D'ailleurs, la famille européenne a une agence de cybersécurité, alors vous la connaissez peut-être pas, est-ce que vous la connaissez, non ? Elle s'appelle l'ENISA, E-N-I-S-A. Elle est basée à Héraklion. Vous savez où est Héraklion ? En Crète. Je peux vous dire que, bah, imaginons, nous serions à Héraklion aujourd'hui. C'est le même temps qu'à Chalon, à peu près. Régime crétois, qualité de vie, hein, huile d'olive. Vous avez une belle qualité de vie. En plus, vous êtes défiscalisé puisque vous êtes fonctionnaire européen. Elle est pas mal, la vie. Hein. Je pense qu'on refait du sport, on est pas mal. Là, on dîne en cette saison, on dîne dehors à Héraklion. Hein. Simplement, vous avez compris qu'en géographie, si vous placez cette agence de sécurité à Héraklion, elle n'est pas totalement au cœur des infrastructures et des institutions européennes. Elle n'est pas à Luxembourg, elle n'est pas à Bruxelles, elle n'est même pas à Strasbourg. Elle est vraiment, Et donc, on sent déjà que les pays européens disent « oui, il faut qu'on crée une structure, mais enfin, si on pouvait la mettre... » Et comme à l'époque, les Grecs, ils avaient des problèmes, des machins, « bah, tiens, prends ça ». Alors en plus, ils disent Héraklion, oui, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de vol Bruxelles-Héraklion, donc il faut aller à Athènes. Et puis manifestement, les gens, je ne sais pas si vous êtes allé à Athènes, déjà, vous savez, quand vous atterrissez, vous voyez le Parthénon. Alors les gens se disent, ah, mais en fait, c'est vrai qu'à Athènes, il y a le Parthénon. Et donc en général, les délégations s'arrêtaient. Parce que c'est bête, une fois que vous êtes à Athènes, de ne pas faire le Parthénon. Enfin, l'Acropole, tout ça, c'est dommage. Donc moralité, on a installé des bureaux, non mais c'est surréaliste, parce qu'ils ont installé des bureaux, donc la petite agence qui avait un budget de 10 millions d'euros, pour faire toute la cybersécurité des 28 à l'époque et aujourd'hui 27 pays de l'Union européenne, 10 millions d'euros. Prenez le CSA, enfin l'ARCOM, pardon, vous savez, cette autorité qui gère la radio et la télévision publique, a un budget de 40 millions d'euros. Donc vous sentez que tous les pays, les 28 pays de l'Union, n'ont pas décidé de mettre le paquet sur le sujet. Parce qu'il y a un côté, vous savez, voilà, j'ai fait faites un don à une œuvre, mettez un euro. Voilà. Oh, je mets un euro, passez avec votre petit chapeau et on passe à un euro. Mais il n'y a pas de volonté d'arriver à un structure. Et pourtant, l'économie européenne est certainement une des économies les plus dépendantes du numérique, d'une part pour son activité, mais également pour sa croissance future. Même si aujourd'hui on veut faire revenir des usines, et je pense que c'est tout à fait bienvenu, enfin, on est quand même plutôt une économie de la connaissance. Et donc, ça veut dire que la famille européenne, quand il s'agit de se défendre, de s'attaquer, elle est alliée, mais elle n'est pas intégrée. Elle n'est pas intégrée, ça veut dire que, par exemple, c'est pour ça qu'on va vous parler d'Europol, peut-être qu'on va vous parler d'Europol. Europol, c'est un service qui est à, notamment, le centre de lutte contre la cybercriminalité est à La Haye, aux Pays-Bas. Et quand Europol va lutter contre la cybercriminalité, enfin, d'ailleurs en général, mais en particulier dans la cybercriminalité, va être un lieu de coordination, va être un lieu de partage d'informations. Chaque service police ou gendarmerie des pays membres, toc toc, voilà, moi j'ai ça, je peux donner ça, je coopère. Ce qui est très dit. Et donc, quand quelquefois des journalistes, par abus de langage, disent Europol, c'est le FBI européen, ah non! Enfin, si, c'est facile comme expression, mais c'est faux. Parce que le FBI, c'est un droit, le droit fédéral des États-Unis d'Amérique, avec une police sur un territoire de 350 millions d'habitants. C'est-à-dire que l'agent fédéral, il peut aller de Floride au Texas, en passant par la Nouvelle-Orléans ou Hawaï, il est partout chez lui. Il applique le même droit, il est légitime, il n'est pas dépendant de commissions rogatoires internationales. C'est autre chose que notre policier français, quand il a un truc en Allemagne, il est obligé... Bon, alors, il y a des accords qui ont été faits, il y a des formulations, des procédures, mais il faut quand même qu'il fasse toc-toc, bonjour, monsieur mon homologue du BKA, le Bundeskriminalamt, par exemple, bonjour, est-ce que tu accepterais ? Regarde, j'ai un dossier, oui, très bien. Eh bien, je vais regarder, je vais peut-être traduire aussi, parce que tu parles une langue qui n'est pas la mienne. Ah bon, d'accord, et hop, et ainsi de suite. Et on n'est pas dans la fluidité des échanges. Donc, vous avez compris que dans cet univers-là, le méchant... Désolé, je fais comme le ministre de l'Intérieur, vous avez dit, les gentils doivent être gentils et les méchants méchants. Donc moi, je vais voir. Il faut être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Donc. C'est une vraie doctrine, ça. C'est horrible. Et donc, effectivement, les méchants, eux, sont dans une fluidité. Et que le fait qu'il y ait des frontières, on revient à notre sujet, est presque un élément de protection des méchants et de pénalisation des gentils. Pourquoi ? Parce que, alors je parle des gentils des pays démocratiques, c'est-à-dire ceux qui respectent les codes de procédure pénale. Si vous ne respectez pas les trucs, évidemment, vous êtes moins embêté par les règles. Mais si vous y êtes soumis, ou en tout cas vous les acceptez, bah vous êtes dépendant de la coopération, déjà de l'existence d'une coopération et de la qualité de celle-ci. Coopération policière et judiciaire. Et c'est là où on voit que dans un monde numérisé, interconnecté, les vraies frontières, les frontières politiques, les frontières juridiques, les frontières administratives, ont une existence et des conséquences. Parce que justement, quand il va falloir mener des investigations, bah, il faut le pirate aura intérêt par nature soit à régulièrement déplacer son activité d'un pays à un autre, soit de créer des systèmes de rebond, comme des miroirs, pour que les investigateurs se fatiguent, et pourquoi pas s'épuisent, à essayer de remonter la chaîne technique. Et que lui, au final, ça ne lui coûte pas plus cher, mais c'est autant de protection contre des investigations de manière un peu approfondie. Et donc, on se retrouve dans un monde où la globalisation devient la règle. C'est-à-dire où, effectivement, c'est pas comme lorsque vous faites un parcours en train ou en voiture, où vous essayez en général de regarder la plus courte distance entre deux points. Étant donné que dans un univers numérisé, la notion de distance géographique n'a pas de sens, parce que l'information va circuler de manière météoritique, effectivement, on se retrouve dans un cadre qui est globalisé pour l'un, face à un environnement juridique, que ce soit le droit national, les droits nationaux ou le droit international, qui lui est extrêmement structuré. Pourquoi ? Parce que il faut garder à l'esprit que la définition, je ne sais pas si on vous demandait de dire qu'est-ce que la définition d'un État ? Enfin, de manière assez simple. La définition d'un État, pour qu'il y ait un État, il faut trois conditions. Et si ces trois conditions ne sont pas réunies, vous n'avez pas d'État. Il faut un système de droit contraignant, c'est-à-dire que quand on fixe une règle, ce soit appliqué, de manière... Donc il faut que quelqu'un décide de règles et que ces règles, elles soient appliquées. Parce que si vous n'avez pas de règles, ça ne sert à rien. Et s'il y a des règles mais qui ne sont pas appliquées, ça ne sert à rien. Donc il faut un droit contraignant. Après, est-ce que ce droit est démocratique ou pas ? On peut en discuter. Mais en tout cas, il faut une règle qui vous dit « fais pas ci, fais pas ça, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. » Et si vous faites ce qu'il ne faut pas faire, ben, soit on vous oblige à faire ce qu'il faut faire, soit on vous sanctionne si vous faites ce qu'il ne faut pas faire. Tu fais ? Oui. Donc il faut un droit contraignant. Deuxièmement, il faut une population. Il faut que ce droit contraignant s'applique à une population. Si vous n'avez pas d'habitants, vous avez beau avoir un truc juridique hyper performant, c'est pas très honnête. Et la troisième condition, il faut que cette population soit rassemblée sur un territoire. Si vous avez une population, un système de droit, mais vous n'avez pas de territoire, il n'y a pas d'État. Et donc ça, on est à peu près d'accord à l'échelle internationale pour dire qu'il faut ces trois conditions. C'est comme ça qu'on parle d'État failli ou d'État ou des communautés qui ont des diasporas mais qui n'ont pas d'État, etc. Voilà, parce qu'il manque à chaque fois une des trois conditions. Le problème, c'est que cette définition, lorsqu'on l'a élaborée, lorsqu'on l'a construite par les jurisconsultes, comme on dit, l'ont élaborée, il n'y avait pas de concurrence. Oui, un État, c'est ça. Il y a une entreprise, par ailleurs. Il y a des individus, des citoyens, ça très bien. Il y a des organisations internationales. Ce que change notre univers de nos fameux frontières.com, c'est... Pourquoi est-ce que je l'ai appelé frontières.com ? Parce qu'une frontière, c'est l'apanage d'un État. Un État pour deux conditions. La première, c'est de dessiner une frontière. Et la deuxième, c'est de reconnaître une frontière. Si vous dessinez une frontière que personne ne reconnaît, c'est ce qu'on a avec le sud marocain notamment. Bah, vous avez un État qui dit bah, « ça, c'est chez moi », et vous avez le reste de la communauté internationale qui dit « non, c'est pas chez toi, c'est chez l'autre, c'est le voisin, le grand voisin d'à côté ». Donc pour qu'il y ait frontière, il faut qu'un État le dise, et il faut surtout que les autres le reconnaissent, sinon c'est pas reconnu. Et le point com, donc ça, c'est un univers d'États, avec des États qui sont parties prenantes, qu'on les accepte ou qu'on les accepte pas, qu'on les reconnaisse ou qu'on les reconnaisse pas, mais il n'y a que des États qui sont sur le terrain de jeu. Le point com va modifier cela parce que le point com, c'est le suffixe, vous savez que vous avez sur des sites internet, donc qui vient du numérique, et c'est un suffixe thématique, c'est un suffixe qui désigne les entreprises. C'est effectivement le suffixe du commerce. Et ce qui va changer, c'est des institutions qui ont, si on reprend nos trois conditions, un système juridique contraignant pour une population rassemblée sur un territoire. Eh ben, c'est à peu près les définitions des conditions générales d'utilisation de toutes ces applications que vous avez certainement lues, acceptées et validés lorsque vous les avez téléchargés sur votre téléphone. On est bien d'accord qu'à chaque fois, vous avez... Et surtout, vous le faites également pour les mises à jour de ces conditions générales d'utilisation. Ce qui fait que votre téléphone, il n'y a rien dedans, parce que si vous ne les avez pas acceptés, a priori, vous ne pouvez rien télécharger. Et lorsqu'on a ces conditions générales d'utilisation, elles s'appliquent à une population, vous, nous, eux, les autres, ceux qui utilisent ces applications, alors que nous, non. Et ils ont un territoire qui sont leurs serveurs, leur infrastructure informatique de stockage des données. Et on peut y rajouter désormais les câbles, tout ce qui va permettre à faire les interconnexions, les satellites, enfin tout moyen d'interconnexion. Donc en fait, on se trouve que ce qui était avant un privilège d'État, maintenant il y a des entreprises qui ont ça. Et les entreprises qui vont avoir une puissance financière, lorsque Meta, donc la maison mère de Facebook, met sur la table quand Elon Musk met 44 milliards pour acheter une entreprise. Alors il s'est endetté, mais il sort 44 milliards. Il n'est pas allé voir une banque centrale, il met 44 milliards de dollars sur la table. Et donc vous avez des structures qui ont à la fois l'argent, ils ont la population et ils ont le droit. Le droit qui est souvent un des éléments de faiblesse des organisations internationales. On a des conventions, des textes de l'ONU qui prennent des positions au Moyen-Orient depuis des décennies, qui ne sont pas appliqués. Parce qu'on dit oui, mais parce que c'est la géopolitique, il y a des intérêts stratégiques, pourquoi pas? Mais en tout cas, on a bien la production d'un droit, mais qui ne trouve pas son application opérationnelle. Lorsque Facebook décide, à cause d'un professeur français d'ailleurs, un professeur du secondaire français, que le tableau L'origine du monde de Courbet, vous le visualisez? Bien. Facebook dit ça, c'est de la pornographie. Alors que le tableau est au musée d'Orsay depuis... Parce qu'en fait, il y a un prof qui a mis ça sur son compte Facebook, il a fait un truc, il ne faisait rien de racoleur, il faisait un truc sur Gustave Courbet, enfin vraiment... Facebook dit de manière unilatérale, moi, je considère que c'est de la pornographie, je le retire automatiquement sur l'ensemble des plateformes. Donc on a bien un système juridique, donc une condition générale d'utilisation, qui s'applique, alors, il n'y a pas eu de tribunal, mais... C'est l'équivalent, c'est-à-dire quelqu'un qui décide de concrétiser l'application d'une décision juridique dans des infrastructures, un territoire, tous les comptes Facebook à travers le monde. Et donc vous avez, et là il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de jugement, parce qu'en principe vous savez qu'en droit, en France, un pays comme la France dit toute décision est susceptible d'appel, là on vous dit bon, non, c'est comme ça. Après il y a eu un émoi médiatique, il y a eu une mobilisation, donc ça a été renégocié, ça a mis des années avant d'être renégocié, et d'ailleurs à la fin, ça s'est terminé où Facebook a fait un don à une œuvre sur l'éducation à l'art pour éponger le truc en disant bon oui on a été un peu voilà, mais ça a pris des années parce que le prof est allé en justice et que ça a été traîné et que ça s'est terminé devant un tribunal, ça s'est terminé effectivement devant un tribunal. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez donc des acteurs qui aujourd'hui ont un rôle prépondérant et qui ont une capacité d'action qui jusqu'alors relevait de l'autorité des États. Prenons l'exemple, lorsque, au début du conflit ukrainien, le vice-premier ministre ukrainien envoie un tweet, donc un message sur un réseau social, niveau zéro de la communication, vraiment un truc qui est fait en quelques secondes, où il interpelle Elon Musk, propriétaire de la constellation satellitaire Starlink, et qu'il dit à Elon Musk, « Monsieur Musk, est-ce que vous pourriez déplacer la constellation satellitaire Starlink au-dessus de l'Ukraine ? Parce qu'actuellement, les Russes font des bombardements qui détruisent les infrastructures au sol de communication. Et donc, comme ça, ça nous permettrait de maintenir une communication de l'Ukraine à destination du reste du monde. » Et manifestement, c'est ce qu'on a eu après. On a vu que c'était dans la stratégie de M. Zelensky quand il fait des visios avec la Knesset à Tel Aviv, avec le Bundestag à Berlin, avec l'Assemblée nationale française ou avec le Congrès des États-Unis. Et qu'il en a fait un des leviers de sa diplomatie quand il intervient au Festival de Cannes, en plénière du Festival de Cannes, de l'Université d'été du MEDEF. Bon, c'est différent que le Festival de Cannes, mais c'est un jeu de sa géopolitique. Enfin, c'est un chapitre de son histoire géopolitique. Et qui sait si la situation a été différente, mais on peut concevoir, admettre aujourd'hui, que le fait que M. Zelensky ait pu apparaître dans ces circonstances-là, qu'il ait pu interpeller des personnalités, qu'il ait pu être présent dans les différents environnements politiques nationaux, dans les événements culturels de la planète, a certainement, au-delà de la résistance physique, etc., et de l'aide, de l'assistance, mais c'est un élément de la géopolitique, incontestablement. Puisqu'au même moment, les Russes essayaient de rivaliser sur le terrain de l'image, de l'information, et on sent bien que c'était moins fluide. Donc ça veut dire que par sa décision, M. Musk, alors après vous avez vu qu'il a eu des états d'âme, disant, après tout ça me coûte une blinde cette histoire, un pognon de dingue, comme dirait Macron, le problème c'est qu'il s'est interrogé à haute voix, de dire, écoutez, c'est quand même moi qui paye pour tout ça, donc les gens disent, quand même tu peux, tes premières fortunes du monde, oui, en fait je peux, et en fait donc il a maintenu le truc. Alors est-ce que ces atermoiements sont vrais ou pas, est-ce qu'ils sont sincères, je suis incapable de vous dire, parce que je ne suis pas... psychiatre, mais il s'est interrogé, et aujourd'hui, la constellation perdure, même si voilà, il y a d'autres moyens de communication, mais perdure. Et donc, on se retrouve avec des acteurs qui peuvent jouer un rôle dans cet univers qui avant était l'apanage des États et des chancelleries, des diplomates. Et ça, c'est très intéressant, parce que la question va se poser à un moment de savoir... chaque pays, combien de divisions. Nous, on sait calculer, quand il y a un défilé militaire au mois de mai sur la place rouge, quand vous avez, les Américains n'ont pas de défilé militaire, mais c'est aussi un moment de démonstration de force, un moment de cohésion, certes, mais aussi où vous montrez vos matériaux, vous montrez que vous avez du personnel, que vous avez une armée qui tient la route, etc. Donc c'est un acte de communication. Dans ce domaine, alors même si depuis 3 ans maintenant, les soldats qui appartiennent à l'état-major cyber, puisque nous avons un état-major de l'air, de la terre, de l'air et de l'espace, de l'air, de la terre et de la mer, il y a maintenant un état-major dédié à cet univers-là. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir, et enfin, il est important, d'avoir une expertise offensive et défensive dans un univers qui est à la fois civil et militaire, mais qui exige des compétences pour conduire des opérations dans les deux dimensions que j'évoquais tout à l'heure, les tuyaux, les infrastructures, soit attaquer, soit éventuellement et également se défendre, mais également la deuxième composante qui est les contenus, l'information. On a vu ces problématiques de fraude à l'information, d'usurpation d'identité, de diffusion de ce qui a été popularisé sous le terme de fake news, et qui est certainement la dimension importante. Pourquoi ? Parce que elle va permettre à des activistes, quelle que soit leur motivation et leur modèle économique, de conduire des opérations hyper personnalisées. Lorsque, alors j'oserais dire dans l'ancien temps, vous regardiez en famille l'écran de télévision qui était dans le salon, et avec bonheur, peut-être que plusieurs générations cohabitaient, vous regardiez même le journal télévisé, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, les gens pouvaient dire, chacun voyait le même événement, avec le même ordonnancement d'informations. Et chacun, en fonction de son âge, de son expérience, de sa culture, de sa maîtrise des langues, de n'importe quoi, pouvait contribuer à éclaircir ou à débattre sur le sujet. Certains vous disent, bah oui, mais moi j'ai connu quand c'était l'Union soviétique, ah oui d'accord, la Russie, le disaient, bah oui, mais moi j'y suis allé en voyage, machin. Et vous aviez, par rapport à une information donnée, une confrontation d'expertise, de point de vue, d'analyse, qui permettait peut-être d'informer les uns, d'instruire les autres, de corriger les troisièmes, et qui permettait d'avoir un partage lié à la pluralité des parcours des gens qui étaient destinataires au même moment de la même information. Et peut-être que dans l'appartement d'à côté ou dans la maison d'à côté, ben, on avait le même cas, et des gens avaient regardé le même événement avec la même chose. Et donc ça permettait d'avoir une communauté de connaissances à un moment donné. À partir du moment où l'usage devient l'hyper-personnalisation, vous avez sur votre téléphone, pour ceux qui consomment, mais plus on descend dans les générations, plus c'est le vecteur de consommation, avec une information personnalisée et hyper personnalisée. Ça veut dire que ce que vous avez regardé n'est pas ce qu'a regardé votre voisin, votre conjoint, votre enfant ou votre aîné, enfin votre aïeul. Et ça, c'est sans précédent. Ça veut dire que les pirates informationnels, c'est ce qu'on a eu avec le cas de la présidente, enfin de l'élection américaine, avec le cas de cette société Cambridge Analytica, qui donc achetait des profils sur Facebook pour faire de l'information hyper personnalisée et dire à chacun ce qu'il avait envie d'entendre. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire des opérations de manipulation de l'information. Pourquoi ? Parce que par l'historique de navigation, on va savoir quels sont vos centres d'intérêt et on va bâtir autour de vous. Et quel que soit votre état de fortune, puisque ce qui va intéresser, c'est votre bulletin de vote, c'est pas votre bulletin de vote, que vous soyez multimillionnaire ou employé de bureau, c'est le même bulletin de vote. On va faire en sorte que votre bulle informationnelle soit façonnée, colorisée en fonction d'intérêts de tel ou tel commanditaire. Et ça, c'est sans précédent parce que la logique algorithmique, un algorithme étant fondé sur la consommation du service, plus c'est ce qu'on a appelé le temps de cerveau disponible, c'est-à-dire le fait de dire plus vous passez du temps vis-à-vis de cet environnement, plus il monétise et donc il gagne de l'argent. Et donc, une fois qu'il s'est aperçu que on est dans la concrétisation du principe de qui se ressemble, s'assemble, et la logique affinitaire va faire que si vous annoncez, et d'ailleurs si vous avez un compte sur un réseau social, prenons Facebook, vous vous amusez, je sais que le président a une collection de couvercles de boîtes de camembert, qui est une vieille passion depuis longtemps, et il se sent un peu seul, s'il y en a d'autres parmi vous, mais il se sent un peu seul dans cette passion, donc il ne communique pas beaucoup dessus, et il se contente de partager cette passion sur Facebook. Pas de problème. Là où il se sentait un peu seul, et que certains peut-être moqueurs, parce que je vois bien des jalousies quant à la collection, à partir du moment où il a commencé sur son compte Facebook à poster des couvercles de boîtes de camembert, à l'autre bout de la France, à l'autre bout peut-être même de la Saône-et-Loire, quelqu'un d'autre s'est dit « mais moi aussi je collectionne des couvercles de boîtes ». Et il y a eu la fraternelle, l'internationale des collectionneurs de couvercles de boîtes de camembert. Et depuis, il est revigoré en disant « ça y est, je ne suis plus tout seul, nous sommes une légion peut-être ». Et alors bon, alors c'est tout à fait heureux dans le cas du commerce des couvercles de boîtes de camembert, mais ça prouve cette logique affinitaire, va fonctionner, évidemment pour des sujets plus légers que celui-là. Il en existe. Et donc, évidemment, c'est là où vous voyez des gens qui vont avoir une croyance, et je dis bien une croyance, pas une connaissance, mais une croyance, qui vont commencer à s'enfermer dans des bulles informationnelles, des gens qui vont vous dire... Et pour avoir travaillé dessus au moment des post-attentats de Paris, c'est vrai que c'était sur les phénomènes de radicalisation. Si vous commenciez à même si vous n'aviez rien à voir avec la religion musulmane, vous n'aviez rien à voir, si effectivement vous postiez quelques photos de personnes ou de situations liées à ces thématiques-là, le logiciel de Facebook, le logiciel du réseau social amenait à vous des gens qui, eux, étaient beaucoup plus radicalisés, beaucoup plus engagés. Et donc, de quelqu'un qui commençait juste à entreprendre une quête, même intellectuelle, dire « Ah, je m'intéresse à... » Moi, je sais qu'on a fait les tests à un moment très régulièrement pour tester l'autre. C'était impressionnant. Vous receviez des appels à conversion, des appels à participer à des collectifs, à faire des appels aux dons, à faire en sorte de se mobiliser, d'être un relais, d'être... Voilà. Et donc, c'est sans précédent. Puisque vous aviez quelqu'un, cette information arrivait directement dans l'intimité, même pas du foyer, mais l'intimité du téléphone portable. Et c'est comme ça qu'effectivement, vous avez des gens qui vont vous dire « Bah non, nous, on n'a jamais été pratiquants, on n'a jamais fréquenté telle ou telle communauté », et que les parents étaient absolument sidérés quand, effectivement, les enquêteurs débarquent et disent « Mais votre enfant passe du temps ». Parce que l'hyper-personnalisation, et ça, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'être dans un quartier, vous n'avez pas besoin d'être dans un milieu social, c'est l'individu. Et donc, c'est l'information qui vient à vous dès lors que vous avez commencé à manifester. Et cette information, elle connaît, alors évidemment, hélas, dans le domaine idéologique, mais dans plein d'autres domaines. Prenons un exemple, si vous êtes artisan, commerçant, vous souhaitez investir. Je ne sais pas, vous voulez avoir, vous avez besoin de 5, 10 000, 15 000 euros pour faire un petit investissement pour votre commerce. Qu'est-ce que vous faites d'habitude? Vous allez voir la banque. Bonjour, j'ai besoin d'investir, je voudrais emprunter 15 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros. Comment fonctionne l'économie classique? Votre banquier va vous dire, très bien, bah vous allez me donner votre comptabilité des 5 dernières années, puis je vais voir, est-ce que vous faites du chiffre d'affaires, vous faites de la marge, est-ce que vos précédents emprunts, vous les avez remboursés, est-ce que vous avez un garant? Ça, c'est niveau zéro de la banque, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut payer à part vous, quoi? Et puis si vous répondez oui à ces questions, eh ben vous repartirez a priori avec votre chèque. C'est le monde ancien. En fait, c'est comme si on voyait l'avenir, donc l'avenir du commerçant, avec un rétroviseur, puisque c'est votre historique de consommation qui va conditionner ça. Aujourd'hui, alors la France ne le permet pas parce que la réglementation bancaire est un peu différente, mais ça existe aux États-Unis. Vous êtes commerçant américain, ou même pas commerçant, mais vous pouvez en tant que particulier vendre des choses sur Amazon. Revendre des choses, vous faites du tricot, vous faites un pull, vous voulez le revendre, vous prenez des pièces détachées d'ordinateur, vous les assemblez, vous voulez le revendre, vous pouvez vendre. Voilà, c'est une activité commerciale. On peut le faire en France aussi, mais aux États-Unis, c'est encore plus facilité, notamment comptablement et fiscalement. Bref, vous faites ça, et Facebook, et Amazon, imaginons que vous ayez eu cette petite activité pendant 2 ans, va vous dire, par simple mail, vous vous présentez, vous vous inscrivez avec votre compte Amazon et vous dites, voilà, moi j'ai besoin de 5 000, de 10 000 dollars. Amazon va vous les prêter et va moduler les conditions, donc la durée du prêt, le montant du prêt, le taux du prêt, en fonction. Il ne vous demandera pas votre CV, il ne vous demandera pas votre compte bancaire. Il dira non, parce que moi, ce que je connais de vous suffit à vous caractériser, à vous donner une note de solvabilité. Et c'est cette note-là, donc vous n'avez pas besoin de justifier avec des éléments supplémentaires, vous n'êtes pas avec un bulletin de santé, une analyse d'urine, enfin comme on fait quand vous allez à la banque, on vous demande des trucs dingues. Moi, je me souviens, on m'a demandé un CDI. Je m'endettais sur 30 ans, on me demande, est-ce que vous avez un CDI? Et enfin, j'ai dit à mon banquier, mais vous savez que moi, si je démissionne demain, dans 3 mois, je n'ai plus rien. Ou si je me fais virer, c'est 3 mois. Donc me dire pour un truc sur 30 ans, est-ce que j'ai un CDI, ça n'a aucun... Enfin, je lui ai dit, je peux bien vous le dire, mais ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas un critère. Et moi, à l'époque, j'étais jeune. Donc j'étais plus employable que je ne le suis maintenant. Donc je lui dis, en plus ça va durer, moi je serai employable. Enfin, si j'en crois les statistiques. Donc votre critère de dire, est-ce que vous avez aujourd'hui un CDI pour les 30 prochaines années, est complètement... il se rassure comme il peut, mais ce n'est certainement pas le bon indicateur. Par contre, quand Amazon dit, et je ne défends pas le modèle d'Amazon, enfin, en tant qu'Amazon, mais lui vous dit, oui, mais moi je sais que depuis 3 ans, vous avez réussi à partir de rien à générer tant d'argent, parce que vous avez fait des tricots comme une dingue, vous faisiez des trafics de couvercles de boîtes de camembert, c'est dingue, ça deal, il les achète 3, il les revend 200, enfin des trucs fous. Et là, vous vous dites, bah, moi je peux bien vous prêter 5 000 euros. Oui, bien sûr, parce que vu ce que vous faites, moi je peux le faire. Et donc ça veut dire que votre comportement, en dehors de toute documentation administrative, devient votre cote. Et ça, c'est un truc que les États-Unis ont fait. Vous avez une structure qui s'appelle aux États-Unis Equifax. Alors, c'est un truc que nous, avec notre culture de la Commission informatique et liberté, ça paraît un peu compliqué. Ça donne à chaque Américain une note, un crédit social, pour pouvoir indiquer sa solvabilité. Donc, c'est une base de données gigantesque dans laquelle on a tout. On a votre vie professionnelle, votre vie personnelle, vos problèmes de santé, etc. Bon, évidemment, cette base, en 2017, a été piratée sur 143 millions, donc un Américain sur deux. Bref. Et donc, ce n'est pas forcément protégé. Mais donc, on a fait un crédit social. Et c'est vrai que cette notion de crédit social, nos amis chinois le font également. Simplement, eux, ils rajoutent une dimension qu'il n'y a pas dans Equifax aux États-Unis, qui est la dimension politique et idéologique. C'est-à-dire que si vous donnez votre sang, par exemple, ça, vous avez des points. Si vous participez à des groupes de réunion de parti, ah, vous avez des points. Si vous avez signalé quelqu'un qui ne donnait pas son sang, vous avez des points. Bon. Et puis, donc vous cotez, vous avez une cote, donc vous pouvez soit gagner des points, soit en perdre, et quand vous en perdez, la vie est moins bien, bah, moins confortable. C'est-à-dire qu'à un moment, vous ne pouvez plus prendre de billets de train, plus prendre de billets d'avion. Vous pouvez, enfin, voilà, au fur et à mesure, après, vous pouvez, par des stages, récupérer. Et donc, ce que permet aujourd'hui, et ça, c'est très important, le fait que l'hyper-individualisation est rendu possible par le numérique. C'est-à-dire le fait qu'on va pouvoir, et je reviens à ma phrase de tout à l'heure, « Ah, on ne peut pas mettre un policier derrière tout le monde. » Oui, mais à partir du moment où on est en mesure de recenser, stocker et croiser les informations, c'est important. Produire des informations, ça veut dire que chacun de vos actes fait l'objet d'une trace. Deuxièmement, il faut que ces traces, elles ont une valeur, enfin, dès lors qu'on peut les stocker. Si on ne les stocke pas, ou si on ne peut pas y accéder, ça n'a pas de valeur. Vous voyez, c'est comme quand vous avez des photos en vrac dans une boîte à chaussures. Bon, c'est très bien, mais il faut se replonger dedans pour retrouver les photos. Mais ce n'est pas pareil que quand les photos sont indexées, caractérisées, les noms des gens sont inscrits, les dates, les lieux, etc. C'est pas pareil. Et la troisième condition, c'est de faire en sorte que vous ayez des outils pour croiser, exploiter. Vous ayez ce qu'on appelle un moteur de recherche, notamment. C'est-à-dire que si vous mettez un mot-clé, est-ce que ça vous remonte, vous cherchez tous les Jean-Paul, hop, tous les Jean-Paul qui sont en photo, ça vous extrait les Jean-Paul, vous cherchez tout ce qui s'est passé en 1982, hop, ça vous remonte les trucs. Si ce n'est pas indexé et que vous n'avez pas la capacité de rechercher cette information, son assemblage est vain, n'a pas de finalité. Et donc, en clair, ce qui est numérisé et ce qui n'est pas numérisé, ce qui n'est pas indexé, n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette mémoire-là. Et donc, c'est vrai que ça va être un des sujets de potentiellement de pilotage et pour ne pas dire de surveillance de la population, c'est le fait effectivement qu'on va conduire des actions, soit pour essayer de surveiller les gens, soit au contraire pour essayer de comprendre quelles sont leurs préoccupations et éventuellement soit juste en tirer parti en disant bah, tiens, je sais ce qui préoccupe les gens, soit au contraire j'essaye de contrôler, voire d'orienter ce qui peut être leur centre d'intérêt. Et donc, dans cet affrontement, vous m'arrêtez, Monsieur le Président, sur les, en termes d'horaire. Non, mais en termes d'horaire. En termes d'horaire, non, pour être sûr. Voilà, non, mais pour être sûr de respecter vos horaires. La question est surtout que, donc, on va se retrouver dans un univers où, effectivement, on va être capable de documenter des sources d'informations sans, avec des capacités sans précédent par rapport à ce qui a pu être fait par le passé. Et donc c'est là où il faut un exercice de c'est pas de la fiction, mais quand même de se poser à chaque fois, de se dire, prenons un exemple. Il y a quelques années, vous avez un grand assureur d'origine italienne, mais il l'a fait en France, mais en fait ça existe dans d'autres pays, mais bon, un grand assureur, qui décide de contacter ses clients et de leur dire: cher monsieur Fournier, c'est lui que je charge à chaque fois, vous êtes un très bon conducteur. C'est facile de flatter les gens en leur disant vous êtes un très bon conducteur, parce que chacun estime qu'il est un très bon conducteur. Donc, contrairement aux autres là, qui sont touristes. Et simplement, votre voiture, vous ne l'utilisez que 3 jours par semaine et pendant les grandes vacances. C'est dommage, parce que la police d'assurance à laquelle vous avez souscrit, elle est sur 52 semaines, 365 jours. Donc en fait, vous payez alors que vous... Et donc moi, ce que je vous propose, alors à l'époque, je vous parle de ça, c'était donc au milieu des années 2000, ce grand assureur qui est un humaniste a dit à ses clients: je vous offre un GPS. À l'époque, il n'y avait pas ça sur tous les téléphones, c'était, vous savez, c'était un appareil à part entière, enfin vous aviez un GPS. Oh, c'était pas natif dans les voitures. C'était, ah très bien, vous dites, oh, il est sympa mon assureur, il est quand même très sympa. Et donc, et puis moi, je vais vous dire ce que je vais faire, c'est que, alors un truc, évidemment, c'est comme ça venait des États-Unis, ça s'appelle pay as you drive, payer comme vous conduisez. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que, comme vous ne roulez que 3 jours par semaine, ça va vous réduire votre prime d'assurance, parce qu'on va faire au réel. Quand vous conduisez que peut-être que 80 jours dans l'année, ben, moi, je vais vous faire un tarif d'assurance qui correspond à vos 80 jours dans l'année, c'est super. Et vous dites, ah ben oui, c'est très bien. Et donc, toc, vous signez et vous recevez le GPS à la maison. Vous le mettez dans votre voiture et vous roulez. Vous roulez d'ailleurs peut-être, effectivement, les 80 jours dans l'année, il n'y a pas de problème. Donc la première année, vous dites, c'est super, j'ai fait une économie. Simplement, c'est vrai qu'à ce moment-là, votre assureur a une connaissance intime et continue de votre conduite. Et comme il a une connaissance... Alors avant, il vous voyait bien arriver quand vous aviez rendez-vous. Bon, il voyait bien si vous arriviez à vous garer, si vous défonciez la haie, si vous étiez complètement sous. Donc... Mais c'était... À part quand il vous croisait dans boulevard Niepce à Chalon, mais sinon, il savait pas comment vous conduisiez. Il disait, oui, il a l'air plutôt bien, plutôt sobre, mais je sais pas bien. Là, il sait exactement. Il sait que quand il fait Paris-Marseille, il s'arrête pas. Pourtant, on vous dit, toutes les 2 heures, il faut s'arrêter. Il sait que quand il est sur une départementale, il est plutôt à... Il le sait, parce que comme c'est géolocalisé, un GPS, il voit bien la distance, l'heure, tout ça, il voit bien que vous êtes bien à 110 km/h, alors que vous devriez être à 90, maximum. 80, oui, parce qu'on est à la campagne. Oui, pardon. 80. Alors, moi, en tant que bon parisien, je conduis jamais, hein, donc c'est pour ça que c'est très théorique, tout ça. La deuxième chose, c'est, effectivement, donc il va cumuler de l'information sur vous. Alors, tant que vous n'avez pas d'accident, bons amis, le jour viendra, si évidemment, quand vous avez un accident, il va vous dire, mais ça ne m'étonne pas, lui, quand il fait Paris-Marseille, il ne s'arrête jamais, il est toujours à foncer comme un dératé. Et là, votre cote en tant que sujet d'assurance, voilà. Et là, vous allez trouver que votre cadeau de GPS, il va vous coûter cher quand même. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on était dans un univers où avant, il n'y avait pas de mesure, il n'y avait pas de traces, il n'y avait pas de comptabilité, il n'y avait pas de croisement. Même chose sur les bracelets connectés. Là, vous avez un certain... Il s'avère que Apple, qui fait des bracelets connectés depuis un certain nombre d'années, vient d'annoncer la semaine dernière vouloir vous vendre un service d'assurance. Alors, je n'ai pas de conseils à vous donner. Mais si vous prenez le bracelet connecté et que vous souscrivez à la police d'assurance, va falloir avoir une... Enfin, c'est autre chose, hein, une hygiène de vie maintenant. Va falloir... Les chips, vous pouvez, mais va falloir faire du sport. Faut... Ah bah oui. Ah ben évidemment, parce que là, vous êtes au réel, vous êtes dans une intimité de la consommation. Et donc, c'est des choses qui n'étaient pas envisageables. Alors évidemment, à chaque fois, comme le conducteur de tout à l'heure, moi, c'est pas grave, je suis un très bon conducteur. Mais si d'aventure, vous ne l'étiez pas, simple mortel, vous n'étiez pas, donc là, la vie et les conditions de vie pourraient changer. Voilà. Et donc, ce qui n'est pas là, c'est qu'on est dans un monde où la donnée va être pouvoir. Et donc, effectivement, cette donnée, elle va conditionner tout. Elle va conditionner tout, et c'est là où on voit un changement d'époque. Un changement d'époque, c'est que peut-être que chez vous, aujourd'hui, vous avez à la maison une vidéothèque, avec des cassettes vidéo, avec des DVD. Ça, c'était le fruit de l'histoire. Ensuite, vous aviez une discothèque avec des disques. Il est possible que vos enfants, ou les enfants de vos enfants, enfin votre main, n'aient pas chez eux de vidéothèque, n'aient pas de discothèque. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un abonnement. Spotify, Deezer, Apple Music. Et ça, c'est très différent. Alors évidemment, on dit, c'est pas grave, c'est la même musique, c'est pas le sujet. Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que déjà, on va passer d'un monde qui est le monde de la propriété par rapport au monde de la location. Alors, vous, ça vous paraît pas grave, madame, vous, hein ? Ça veut dire que quand, imaginons que demain, vous n'ayez plus de revenus, ce que je ne vous souhaite pas, mais que, en tout cas, que dans les arbitrages, vous ne pouviez plus payer votre abonnement à Spotify ou à Deezer. Ah, bah, va falloir se mettre à siffloter et à chantonner, parce que vous n'aurez plus accès à la musique. Alors que l'intégrale de Claude François du président Fournier, il y accède quand il veut. C'est une force. C'est la différence entre la propriété et la location. Tant que vous pédalez, que vous êtes solvable, vous payez votre abonnement, vous avez accès à toute la musique. Le jour où vous ne payez plus, vous n'avez à transmettre à vos enfants, vous n'avez plus de dire, tiens, je vais te faire écouter l'intégrale de Carlos traduit en anglais. Vous n'avez plus. Et donc ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que, culturellement, la deuxième chose, c'est que, prenons une chanson de Carlos, maintenant ça commence à dater, mais imaginons que, pour des raisons aujourd'hui, alors je ne connais pas bien l'œuvre de Carlos, en fait je m'aventure dans un truc parce que je ne connais pas bien l'œuvre, mais imaginons qu'elle ait été retirée. On dit non, maintenant, moralement, c'est plus possible, on ne peut plus diffuser ça, c'est impossible, c'est inacceptable. Et que donc, comme notre tableau tout à l'heure de l'origine du monde, de Courbet, il soit banni immédiatement, et d'ailleurs elle le sera immédiatement de l'ensemble des plateformes numérisées, peut-être que vous, vous apprécierez de pouvoir conserver ce truc que vous avez acheté. Et on peut filer la métaphore. Prenons un exemple, le débat s'est posé sur la publication en Allemagne de Mein Kampf. La question est de dire, est-ce que c'est problématique d'avoir un exemplaire de Mein Kampf chez soi? Non mais c'est un vrai sujet philosophique, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez dire, moi je peux avoir un exemplaire et ça me permet de comprendre un événement de l'histoire, une période de l'histoire, ça me permet d'avoir une idée, que je me fais moi mon opinion sur ça, mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis sympathisant de la thématique. Et si quelqu'un décidait, à coûte, tous les gens... Alors que je ne sais pas si vous avez déjà lu Mein Kampf, mais... Enfin, c'est pas... Vous voyez, c'est pas spontané quand même. Hein. Bon, à lire, c'est un peu ardu hein, quand même. Hein. Et la question est de dire, est-ce que si tous les gens qui lisent Mein Kampf deviennent nazis, là, effectivement, il ne faut pas communiquer et il ne faut pas que les gens soient disponibles. Mais par contre, le risque à ce moment-là que vous faites, c'est le fantasme ou d'en faire un élément de, comme un brûlot, comme les samizdats de la version soviétique. C'est-à-dire un truc qui va passer sous le manteau. Et là, vous risquez d'avoir des gens qui, en se disant, tu vois, ils nous le cachent parce que c'est un truc vachement bien et que machin, et qu'au contraire, vous allez susciter un foyer d'adhésion alors que, en fait, si c'était en libre accès, peut-être pas. À titre d'exemple. Donc, la question de dire, quand quelqu'un va décider de manière systématique et autonome, ça peut avoir une incidence sur l'environnement, enfin, sur la communauté. Le fait, effectivement, alors je prenais l'exemple parce que l'argumentaire d'un Deezer ou d'un Spotify, vous voyez donc ces plateformes d'accès à la musique, je me souviens, c'était l'argument de dire, vous avez toute la musique. Et d'ailleurs, je crois que j'ai dû faire un petit paragraphe là-dessus dans le bouquin parce que, en fait, il y avait une remarque, c'était qu'à un moment, et si vous n'étiez pas, enfin, pas fan, j'aime pas le mot, mais adepte de ce chanteur, quand, face à la promesse de dire, ah bah, avec Spotify et Deezer, tu as accès à toute la musique, et si vous n'aviez pas cherché la chanson de ce chanteur, vous ne l'auriez pas, vous auriez ignoré qu'il était absent. C'est un chanteur qui s'appelle Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, au tout début de l'avènement de ces plateformes, a dit « Moi, je ne veux pas que mes chansons soient dedans. » Et tant qu'on ne vous l'avait pas signalé, ben en fait, vous aviez l'illusion de la complétude, vous aviez l'illusion que tous les chanteurs étaient présents là-dedans. Jusqu'au moment où on vous dit « Bah, moi, j'aimerais bien écouter une chanson de Jean-Jacques Goldman. Là, pas de problème, paf, paf, paf. » Et en fait, vous ne la trouviez pas. Et ce n'est qu'il y a quelques années que, modèle économique oblige, il s'est dit, oui, bah, d'accord, c'est bien gentil, mais enfin, bon, les CD, ça se vend moins. Et donc, hop, allons-y. Et donc, ce qui est important, ça veut dire que, et je reviens à mon idée de disponibilité de l'information, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une illusion, je n'ai pas à m'inquiéter puisqu'elle est là. Alors que si quelqu'un décide de la retirer, en fait, vous aurez une absence, une disparition, un peu comme à la grande époque soviétique, vous savez, quand on gommait sur les photos quelqu'un, ah ben avant il était là, ah maintenant il n'est plus là. Et c'est vrai que ça va avoir une incidence sur l'acquisition de la connaissance. Alors, je n'aime pas faire les jeunes, les vieux, etc., mais je vais quand même être obligé d'utiliser cette ficelle-là, parce que vous avez des gens qui vont vous dire, parce que c'est ce qui a joué quand vous avez peut-être entendu parler d'une institution qui a été créée il y a quelques années qui s'appelait Hadopi. Vous connaissez Hadopi ? Hadopi a été créé par la loi pour lutter contre le téléchargement en ligne. Et les mots ont un sens, le téléchargement en ligne. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont conçu la loi étaient de la génération, quand j'aime un film, je le copie ou je l'ai, et j'ai une cassette ou un DVD que je mets dans mon salon. Quand j'aime une musique, j'achète le disque, je le mets dans mon salon. Donc je le télécharge, c'est-à-dire que j'en acquiers la propriété matérielle. Et donc la loi a été créée pour créer cette instance qui a vocation à poursuivre les gens qui font du téléchargement. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que les débits de communication se sont étoffés, à partir du moment où les offres d'abonnement téléphonique sont devenues, sinon illimitées ou quasiment, parce qu'on arrive à des gigaoctets de données qui sont devenues illimitées, à partir du moment où les Wi-Fi se sont multipliés, c'est-à-dire qu'ils avaient, même si vous aviez un forfait bridé, ou en tout cas plafonné, vous trouviez toujours un endroit, un Square, un McDo, un truc où vous pouviez vous connecter en Wi-Fi et donc aspirer les volumes de données, consommer le fichier. En fait, la jeune génération, la génération montante, elle ne télécharge plus. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas de doute sur le fait que cette information, ce film, cette musique, le jour où elle voudra l'écouter, elle pourra la trouver quelque part. Et donc c'est très important en rupture doctrinale, parce que ça veut dire que, avant, si je reprends mon exemple de mon livre, je prends mon livre, je l'achète, je le mets dans mon rayon, dans ma bibliothèque. Le contexte politique, juridique change, j'ai toujours mon livre. À partir du moment où vous avez l'illusion de la disponibilité, déjà vous ne savez pas si ce livre n'a pas été modifié par quelqu'un ou qu'il a été rendu inaccessible. Et donc dans les deux cas, soit parce qu'il a été modifié et qu'on vous avait dit que l'histoire c'était le colonel Moutarde avec dans la bibliothèque avec le chandelier et qu'en fait non, c'est Mademoiselle Rose qui a tué le personnage, l'histoire pourrait être changée. Alors évidemment, tant que c'est une histoire de personnage de Cluedo, c'est pas si grave, mais évidemment, cette notion de mémoire, et c'est d'autant plus fort que nous, en tant que Français, on a été éduqués culturellement sur le principe de l'exhaustivité du patrimoine mémoriel. Alors évidemment, à l'origine, c'était pour des raisons de censure. Mais il n'empêche que, depuis la monarchie, dès lors qu'un livre, un magazine, un journal est publié, il y a un exemplaire qui part à la BNF. Alors c'est formidable pour les historiens, parce qu'on a une base... François Ier, exactement, qui n'était pas chalonnais, mais qui aurait pu. Hein. Parce que j'ai compris que dès qu'il y avait un grand homme, il était chalonnais. Donc je me dis, François Ier, Chambord, c'est pas très loin, Chambord. Je suis sûr que de Chalon, ça commence pareil, d'ailleurs. Le dépôt légal, ce qu'on a appelé le dépôt légal, fait que on a l'exhaustivité de la publication et de la production intellectuelle. Alors on a les bons, les mauvais, les très mauvais livres, enfin on a tout ça. Et c'est vrai que ça nous rassurait, ou en tant que la logique de la connaissance du patrimoine, fait qu'on peut aller rechercher et dire, machin, il a publié ci, truc, il a fait ça, c'était idiot, c'était très malin, ça, oh quel brillant esprit, etc. On a ça. À partir du moment où on va être dans une logique de sélection, de tri, de filtrage, effectivement on n'aura pas forcément cette mémoire intacte. Et c'est important qu'elle soit intacte, ça veut dire que quels que soient les aléas, on ne va pas avoir quelqu'un qui va dire « Attends, ça je vais le corriger, ça je vais le modifier, ça je vais le retirer, ça je vais le détruire. » Et ça, ça peut avoir une importance. On revient à la phrase d'Orwell « Qui maîtrise le présent, maîtrise le passé, et qui maîtrise le passé, maîtrise le futur. » Eh bien, on va conclure, vous voyez. Et donc, on va passer aux questions-réponses. Juste pour finir là-dessus, qui est dire que c'est un sujet important parce que dans la connaissance... C'est un peu comme si, et je dis ça parce que je pense que c'est un gage de maintien d'une agilité intellectuelle. Alors je suis évidemment mal à l'aise pour parler de ça, parce que si vous venez ici à cette heure-là écouter des conférences sur des sujets qui ne sont pas monétarisés, c'est-à-dire, c'est pas une conférence comme celle-ci, c'est pas une conférence sur la tarte aux prunes, où vous ne saviez pas faire la tarte aux prunes en entrant et en sortant, vous diriez, chic, je sais faire la tarte aux prunes. Mais vous arrivez à faire quelque chose, et donc ça veut dire que vous avez cet appétit intellectuel qui entretient justement une certaine agilité et une vélocité. Mais c'est vrai que le risque, c'est que c'est un peu la différence entre quelqu'un qui dirait « je retiens un poème, une chanson », c'est-à-dire que je fais l'exercice de me retenir le poème, etc., de dire « attends, j'ai pas besoin, le jour où j'aurai besoin d'avoir les paroles, j'irai les chercher ». Et ce qui fait que vous êtes dépendant déjà de savoir ce que vous connaissez, et ça va être mon anecdote de fin, c'est, je me souviens d'avoir rencontré le directeur du musée du Louvre, et qui à un moment me dit, c'est formidable, avec le Louvre, tout le Louvre est sur Internet. Vous allez sur louvre.fr, vous avez accès à tout le Louvre. Et je dis, super, Super. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que les gens regardent? Eh bien, les gens regardent la victoire de Samothrace, la Joconde et la Vénus de Milo. Les écuelles des antiquités romaines, elles y sont, hein, mais personne n'y va. Donc en fait, ils vont chercher ce qu'ils connaissent déjà. Et ça veut donc dire que la disponibilité ne fait pas l'éducation et ne fait pas l'instruction. Et si vous regardez le portrait d'ailleurs de Mona Lisa, de la Joconde, je suis sûr que vous prendriez quelqu'un issu d'une tribu enfin, exotique qui n'aurait jamais eu de culture, on lui montrerait des photos de femmes aimables, enfin, souriantes, toc, et une photo de Mona Lisa, je ne suis pas certain qu'il désigne Mona Lisa comme étant un des chefs-d'œuvre de l'humanité. Vous lui mettez la Vénus de Milo et à côté vous lui mettez des statues de femmes complètes, déjà. Je pense que, mais moderne, il vous dira, ah non, le truc important, c'est la dame complète. Enfin, je pense. Et il dira, il n'aura pas, pourquoi ? Parce qu'il n'aura pas eu l'explication autour. Donc, la seule disponibilité de l'information ne fait pas la connaissance. Et ça, c'est très important, parce qu'on a vendu Internet comme étant le truc, oui, mais attendez, vous avez accès à toute la connaissance du monde. Oui, d'accord, mais si les gens n'ont pas l'appétit d'y aller et l'esprit critique pour analyser ce qu'on leur donne... ils iront à la porte et ils iront demander à aller voir la Vénus de Milo, la victoire de Samothrace et Mona Lisa. Donc, ça ne dispense pas et ça ne doit pas dispenser de l'éducation et de l'esprit critique. C'est vraiment deux composantes qui, évidemment, doivent à ce moment-là s'épanouir dans la mise à disposition d'informations avec une facilité, une disponibilité sans précédent. Effectivement, ça faut le reconnaître. On est bon ? On est bon.
Eh bien, merci beaucoup. On peut attaquer la séquence des questions-réponses. Donc, qui veut se lancer dans cet exercice difficile ? Attendez.
S'il n'y a pas, je reprendrai dans ma voix la question.
Merci, déjà. Vous avez parlé de l'historique sur Google qui est... transmettre ça sur 5 ans, est-ce qu'on peut demander qu'ils le détruisent, qu'ils le suppriment ?
Alors oui, parce que vous êtes un citoyen européen, et donc voilà, vous avez un truc que le monde entier a dit, parce que vous savez, il y a cette blague qui dit que les Chinois, pardon, que les Américains inventent, que les Chinois copient et que les Européens légifèrent, donc on se moque de nous, mais il s'avère qu'au fur et à mesure, la question des données personnelles a été un sujet, donc c'est un règlement qui s'appelle, donc vous êtes tous des fins juristes en droit européen, donc vous savez qu'un règlement, c'est un texte qui s'applique immédiatement à l'ensemble des pays membres, contrairement à la directive qui, elle, demande une loi de transposition avec des particularismes locaux. Là, le règlement est rentré en vigueur le 25 mai 2018, si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit deux choses. On protège les données personnelles. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle ? Une donnée qui permet d'identifier quelqu'un ou de le rendre identifiable. Et ou de le rendre identifiable est un truc qui a été ajouté à l'époque justement du numérique, alors qu'avant, historiquement, c'était quelque... Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous prenez l'exemple d'une photo, toute seule, avant, on ne pouvait pas faire grand-chose. Aujourd'hui, si vous prenez quelqu'un, et a fortiori, entre guillemets, de la jeune génération, enfin bon, c'est quelqu'un qui a été beaucoup photographié, on pourra, avec une seule photo, dire qui il est. Si vous n'avez pas un prénom, surtout si on s'appelle Nicéphore, et un nom de ville, retrouver quelqu'un. Aujourd'hui, si vous avez un prénom, un nom de ville, on peut commencer, avec un peu de chance, si la personne a une petite vie, à retrouver quelqu'un. Ce qui n'était pas envisageable dans un monde non numérisé où les données n'étaient pas disponibles. Donc que va faire le RGPD ? Le RGPD va dire, vous donne droit en tant qu'Européen de dire quoi ? Monsieur l'entreprise, vous devez me dire quelles sont les données personnelles me concernant que vous avez chez vous. Deuxièmement, il faut que vous soyez capable de me les isoler, détourer, parce qu'il pourrait vous dire « Ah ben j'ai des données, c'est dans les placards là-bas. » Vous voyez, si je résume, c'est dans les entrepôts là-bas. Non, non, il faut qu'il soit capable de les serrer. C'est comme ça qu'il arrive à les extraire, d'ailleurs, à vous les sortir. Et il faut que vous puissiez, vous, les récupérer, parce qu'il pourrait vous dire « Je vous les montre, mais je ne peux rien en faire. » Non, non, il faut que vous puissiez les récupérer. Et vous pouvez en demander la destruction, mais il faut que vous le demandiez. Pourquoi est-ce que... Alors, à quoi ça sert ? Alors, ça sert dans ce cas-là, mais ça peut servir également... C'est un outil de fluidité numérique. Je prends un exemple. Vous êtes cliente, ou client d'ailleurs, de Sephora. Vous savez, Sephora, les produits. Voilà. Et donc, vous avez votre carte de fidélité chez Sephora, machin, votre crème, votre onguent, toute la panoplie de Sephora. Bon. Et puis, à un moment, votre ami se vous promenait dans la, le boulevard Nicéphore Niépce, donc de Châlons, et vous passez devant la boutique Marionneau. Et vous dites, mais Marionneau, c'est super sympa. Il faut, ou l'inverse, hein, je m'en fous des deux, mais je prends deux titans du bon goût. Donc, et vous dites, mais c'est super. Et puis, vous dites, ah oui, mais moi, j'ai mes points de fidélité, et puis ils me connaissent, parce que j'ai tout mon historique, donc je connais toutes les crèmes, je ne veux pas. Et ce que vous avez le droit de faire, c'est d'aller voir Madame Sephora, donc, pour lui dire, tu me donnes les données me concernant, et dans un format exportable. C'est un truc où ils ne vont pas vous donner des bouts de papier, des trucs, ils vont donner un format de données, enfin. En termes informatiques, c'est documenté, pour que vous puissiez aller voir M. Marionneau, bonjour, voilà mon historique, comme ça vous saurez mes allergies, mes machins, mes trucs, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et donc, l'idée, c'est de dire, on ne tient pas un consommateur prisonnier parce qu'on a un historique chez lui. Et donc, l'idée, c'est ce qu'on appelle la portabilité des données. Voilà, c'est aussi un des avantages en tant que consommateur. Mais donc, effectivement, vous pouvez demander ce à quoi, d'ailleurs, Google va vous dire, en général, cher monsieur, oui, bien sûr, mais moi, je fais ça pour que vos recherches soient les plus pertinentes possibles. Donc, vous allez tomber dans un monde d'obscurantisme. Et de, l'idée, c'est simple. C'est par exemple que quand monsieur écrit Jaguar, alors c'est notamment le parc automobile du président Fournier, mais pour les autres gens, c'est un animal sauvage. Pour le président, c'est l'heure de la révision d'une de ses voitures. Et donc, c'est important. Non, parce que Google vous dit, pourquoi j'ai besoin de ce profilage ? Parce que quand je veux vous faire une publicité, il faut que quand vous écrivez Jaguar, est-ce que je vous mets le parc zoologique de Châlons ou est-ce que je vous mets le concessionnaire le plus proche ? Et ça, c'est donc c'est pour ça que j'ai l'argument en plaisantant, en disant, je fais ça pour vous rendre service. Parce que si vous aimez la nature, je ne vais pas vous embêter avec des bagnoles et vice-versa. Donc, c'est pour vous que je le fais. Enfin, que Google le fait.
Une autre ? Oui ? Allez-y. Madame.
Donc, qu'est-ce
attendez,
que vous faites...
j'ai assez oui. Pour l'instant, c'est faisable.
Est-ce que le concept de navigation privée, VPN, est
à l'heure ? Deux choses différentes. Alors, c'est deux choses différentes. La navigation privée, c'est effectivement l'idée, c'est de dire que vous ne... Alors, on va quand même être très clair. Il n'existe pas de possibilité de naviguer sans laisser de traces. Parce que de toute façon, le principe même... D'ailleurs, je vous encourage... Alors, j'ai vu que la nouvelle ergonomie du site de la CNIL avait changé, c'est regrettable. Et donc, j'avoue que je ne l'ai pas rebalayé ces derniers jours parce qu'ils ont changé leur mise en page. Mais la CNIL, CNIL.fr, avait une rubrique qui s'appelait « Vos traces ». Et quand vous alliez... Et c'était intelligent, et j'espère justement... Je n'ai pas le temps de vérifier s'ils ne l'ont pas supprimé parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir supprimé un truc intelligent. C'est que quand vous alliez sur la rubrique « Vos traces », vous aviez la liste des informations qu'un site internet qui n'a pas mis d'outils de suivi, de flicage, diront certains, de l'internaute a comme information. On a votre adresse IP, c'est-à-dire la plaque d'immatriculation de votre ordinateur. On a le nom de votre navigateur internet. Chrome, Internet Explorer, non pas Internet Explorer, n'importe quoi, ce qui va changer, Bing, Firefox, Edge ou Firefox, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les sites, ça va intéresser. Pourquoi ? Parce que pour un éditeur de site internet, les fonctionnalités ne sont pas totalement les mêmes. Et si lui, il voit qu'il a énormément de gens qui sont plutôt Chrome ou plutôt Firefox, il a intérêt à configurer son site en privilégiant les gens qui sont là. Autre information qu'il va avoir automatiquement, c'est la taille de votre écran. Alors vous allez dire, mais pourquoi il a besoin de la taille de mon écran ? Alors ça, c'est un peu mercantile. C'est que pour un site qui est dépendant ou qui a envie de mettre de la publicité, s'il s'aperçoit que la majorité des gens qui lui rendent visite ont un écran comme ça, ça ne sert à rien de mettre la pub là parce que les gens ne descendront jamais jusque-là. Donc il faut mettre sa pub là. Enfin, vous voyez, c'est la taille de l'écran va dire qu'est-ce que les gens qui fréquentent mon site, si l'écran il est comme ça, c'est pas pareil que si l'écran est comme ça. Donc en fait, la dimension de l'écran. Ça, c'est ce qui fait quand il n'a rien fait. Donc évidemment, déjà, l'adresse IP, ça veut dire qu'on sait qui vous êtes. Enfin, en tout cas, on peut vous retrouver. Et donc évidemment, plus le site va mettre ce qu'on appelle des cookies, c'est-à-dire des petits marqueurs, bah, plus il va collecter des trucs. Donc la navigation privée va permettre de réduire ce type d'information. Mais par contre, il y aura quand même toujours des traces. Votre ordinateur sera quand même celui qui a été à l'initiative de la communication. Par contre, il y a, pour faire ça, c'est pas la totalité parce que ça dépend des cas, mais globalement, on va réduire le type d'information que vous fournissez quand vous vous connectez. Le VPN, donc ce qui s'appelle en bon français un réseau privé virtuel, Virtual Private Network, les significations de ces trois lettres, qu'est-ce que c'est ? C'est une communication chiffrée, ça veut dire qu'elle n'est pas accessible par des gens qui viendraient se connecter en tant que tiers, et qui va utiliser des serveurs, des équipements, à travers des zones géographiques, mais on peut dire à l'échelle internationale, pour ne pas dire mondiale. Et ça veut dire que le VPN va être utile pour chiffrer une communication de manière à éviter qu'elle puisse être interceptée. C'est la première qualité. Deuxième qualité, c'est que vous allez endosser la nationalité du dernier serveur par lequel vous êtes passé. Je m'explique. Pour aller d'ici à là, vous avez donc des dalles de couleurs. Donc on va prendre l'idée que chacune, c'est un serveur différent. Et quand, à chaque fois que vous allez vous connecter en utilisant ce VPN, vous allez utiliser un parcours différent. C'est-à-dire qu'il va sauter sur des dalles différentes, toujours pour arriver à destination, puisque ça, c'est le site internet que vous voulez visiter. Et vous allez endosser la nationalité de la dernière brique avant de rejoindre le site de destination. Je suis clair ? Oui ? Voilà. Et donc, ça veut dire qu'un coup, vous serez peut-être polonais, un coup slovène, un coup... Et donc, quand vous avez un pays qui interdit la consommation d'un site, soit pour des questions politiques, soit pour des questions morales, pour des questions de je ne sais quoi, en fait, vous le leurrez à chaque fois parce que pour lui, enfin pour le système, vous êtes de la nationalité du pays qui est le dernier, la dernière plateforme. La seule chose, c'est que vous avez compris que nous avons, là on parle de technique et d'informatique, mais vous, le fait générateur de tout ça, c'est l'esprit humain, pour ne pas dire la malice. Et donc vous avez des gens qui se disent, Madame, vous êtes en train de vous préoccuper de protéger vos communications. Donc, moi, j'ai l'idée que si je suis les communications que vous effectuez par ce biais-là, je ne vais pas être déçu. Et donc, évidemment, vous avez, d'ailleurs, peut-être étiez-vous sollicité par des offres très affriolantes de fournisseurs de services VPN, qui, évidemment, pillent toutes les données que vous utilisez parce qu'évidemment leur intérêt c'est de dire les honnêtes gens n'utilisent pas de VPN. Alors je ne parle pas des gens dans les pays autoritaires, enfin, bon. Mais les honnêtes gens n'utilisent pas de VPN. Donc quand vous utilisez un VPN, pense-t-il en tout cas, évidemment, c'est que vous avez une activité problématique. Et donc effectivement on a vu plusieurs piratages émanant en tout cas d'exfiltration de données à partir de sociétés qui vendaient officiellement des services de VPN. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut garder à l'idée que tout votre acte est toujours porteur et générateur de traces. La seule question, c'est contre qui se protéger. Après, vous avez des fournisseurs de services de VPN. Déjà, moi, la première chose qu'il faut envisager est déjà un VPN payant. Moi, je suis toujours réservé par les gens qui vous disent « j'ai un truc super et c'est gratuit ». Moi, le seul endroit que je connais gratuit, c'est le Village Schtroumpf. Où vous avez faim, vous allez voir le Schtroumpf pâtissier, vous avez besoin d'un costume, enfin un costume de Schtroumpf, hein, voyez, c'est pas, hein, vous allez voir le Schtroumpf tailleur et vous dites la vie est belle. Alors, il y a juste le Schtroumpf financier, c'est le seul épisode des Schtroumpfs où ça s'est très mal terminé, ils se sont tapés dessus parce que c'est à cause parce qu'il y avait un Schtroumpf financier. Mais donc voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de système, il y a des systèmes qui haussent le niveau de protection, il y a des systèmes qui permettent de faire des choses comme le VPN, mais par contre le choix de votre VPN va être déterminant puisque effectivement c'est lui qui est quand même informé de ce que vous faites, puisque lui, il a une capacité quand même à suivre vos...
On va passer à une autre question. Là.
Bonjour, monsieur. Ce que vous venez de décrire, c'est en gros 20 ans, à une vitesse grand V.
C'est, pardon ?
C'est en gros 20 ans, ça fait 20 ans de vie, de 2000 à aujourd'hui.
Oui.
Hein, de ces évolutions.
Oui.
Et maintenant, c'est avec une vitesse V. Demain, c'est une vitesse V fois V, ou V à la puissance V. Et quels sont, sommairement, les grands risques ou les grands dangers vers lesquels on peut se diriger ?
Alors, sans faire un tableau apocalyptique, mais vous savez, c'est le principe, c'est ce qu'on dit en rigolant, on dit c'est un optimiste qui a inventé l'avion et c'est un pessimiste qui a inventé le parachute. Donc les deux inventions sont intéressantes et complémentaires. Ce qui est certain, c'est que ce qu'on peut voir, c'est on va voir une intensification, parce qu'on n'a pas encore achevé le cycle, des usages numériques, c'est-à-dire de la dépendance au système. Ça peut être un point de faiblesse. Pourquoi ? Parce que à fur et à mesure que vous avez, c'est ce qu'on disait en plaisantant déjeunant, et ça cette fois-ci c'était vrai, c'est le chauffeur de taxi. Vous allez avoir de plus en plus. Enfin, on a eu des gens qui se sont autoproclamés chauffeurs de taxi, mais dès lors que si leur GPS est en panne, ou leur GPS se trompe, ou leur dit n'importe quoi, ils n'en sont pas conscients. Et ils vous font faire la tournée des Grands-Ducs parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Et donc, un des risques, c'est d'avoir quelqu'un qui sera le consommateur d'un service qu'il ne maîtrise pas et donc sera d'autant plus fragile dans cet environnement. Donc ça a été un des vrais éléments. C'est des gens qui n'auront plus forcément une connaissance ou un savoir-faire. C'est comme les gens qui ne savent pas faire un calcul de tête ou en tout cas un ordre de grandeur sans calculatrice. Pourquoi ? Parce que la calculatrice sert de béquille et dit, moi même, vous avez des commerçants qui, même 2 plus 2, ils vous disent, attends, on va quand même vérifier. Bon. Et donc, ça veut dire que l'ordre de grandeur, oui, mais ça, ça veut dire que quand il s'agira, quand vous voyez passer des chiffres, vous n'êtes pas alerté. Parce que vous vous dites, tiens, je prends l'exemple, parce qu'on avait le cas de, par une intelligence artificielle d'une vache qui était derrière un central électrique, vous savez, ces centrales qui permettent d'avoir les moniteurs, et en fait, il y avait 2 vaches. Et il y avait une vache qui était à l'arrière, donc on voyait les fesses de la vache, et devant, il y avait une vache. Et en fait, l'ordinateur, quand il voit, pour lui, il avait une vache qui faisait 8 mètres de long. Il dit, j'ai une tête de vache, j'ai une queue de vache. En fait, elle était derrière un bâtiment, et il y avait 2 vaches, en fait. Bon, et lui, il s'est dit, non, une vache de 8 mètres de long, pas de problème, c'est une vraie vache, on valide, elle était validée. Et donc, voilà, c'est un des périls. Deuxième péril, problématique, ça va être, alors, on évoque le quantique, c'est cette espèce de ton. Nous, notre architecture, nos trois trucs, la confidentialité, la disparité, est fondée sur beaucoup le chiffrement de notre VPN. Le quantique, c'est-à-dire la capacité, pour faire simple, de quand vous avez, je vous fais du quantique vraiment pour les nuls, parce que je suis nul là-dessus, mais c'est globalement, ce qui tient aujourd'hui, c'est le cadenas à combinaison de votre antivol. Vous voyez, on met des combinaisons, puis on part de l'idée que c'est très long, si c'est il y a 5 chiffres, de faire 0001, 0002, alors enfin vous la trouverez la combinaison, mais ça va être très long. Et donc on protège le vélo, partant de l'idée que être à 4 pattes en train de faire ça, c'est les gens vont vous regarder, vont se voir, et donc vous, au final vous ne pouvez pas ouvrir le cadenas. Quoi. C'est ce qui protège, c'est ce qui fait la sécurité du cadenas, c'est que c'est très fastidieux, et c'est pour ça que plus il y a de chiffres, plus c'est long. Ce que permet de faire le quantique, pour ce type d'équipement, c'est de simultanément proposer toutes les options. De le faire simultanément. Donc évidemment, la notion de protection par un code, par un chiffrement, alors que depuis Jules César, parce que vous savez, Jules César a inventé, était le premier à décaler les lettres de l'alphabet pour proposer des messages, il y a un code Jules César, ça n'existe plus. Et notre modèle de confidentialité, c'est pour ça que vous avez une guerre actuellement, pour utiliser le quantique à la fois pour protéger, mais également pour attaquer. Et donc là, ça va être un des sujets, parce que une fois qu'on va avoir cette appropriation des sujets de quantique, c'est comment on va basculer de manière à ce que tout ce qui a été conçu et protégé dans l'environnement chiffré de l'ancien, de notre temps d'aujourd'hui, ne soit pas balayé, parce qu'à ce moment-là, vous ouvrez les portes, c'est-à-dire que votre verrou, il n'existe plus. Et donc ça va être un des vrais sujets de la période qui s'ouvre.
Une dernière, oui, allez-y.
Oui. Alors, moi, mon intuition, mon sentiment, parce que le problème, c'est qu'il nous manque un maître. Le maître, c'est l'isoloir. C'est-à-dire que moi, je peux vous dire si quand vous avez regardé beaucoup de publicité, est-ce que vous êtes allé acheter le paquet de chips ? Vous voyez, parce que je vous suis, je peux vous suivre dans vos achats jusqu'au paquet de chips. Quand on vous donne un bon de réduction, où on vous dit, si vous voulez appeler tel numéro, dans les publicités, dans le journal, on vous dit appeler tel numéro, ça c'est facile parce que le journal peut dire combien de gens ont appelé à ce numéro-là, vous avez fait combien de ventes de gens qui ont appelé le numéro qui était indiqué dans le journal. Et là, vous voyez, vous pouvez monétiser le fait que faire une publicité dans le journal est un truc rentable ou pas. Pareil pour un achat sur Internet, je vous ai donné un bon de réduction qui a été dans un cadre, vous allez l'utiliser, et après je peux dire, il y a 30 personnes qui ont acheté mon livre grâce au bon de réduction de l'entreprise machin. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça c'est faisable. Là, la difficulté pour apporter la même affirmation, et c'est pour ça que vous avez des taux d'analyse marketing très efficaces sur des taux de suivi, ce qu'on appelle le tunnel de conversion, c'est-à-dire entre le moment où vous étiez un visiteur intéressé et vous êtes devenu un acheteur, et je peux vous dire le tunnel de conversion a été concluant. Dans le domaine du vote, ce qui est compliqué, c'est que on ne peut pas rentrer, pas encore, dans le cerveau des gens pour dire est-ce que c'est bien ça. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on voit des mobilisations, on voit des sources d'informations, c'est-à-dire de gens qui ne sont que exclusivement irrigués et documentés par ces thématiques-là, qu'on a quand même vu des résultats à des élections. Alors, est-ce qu'on ne peut pas le flécher aussi finement que du marketing jusqu'à l'individu, parce qu'on n'a pas ce maître manquant, et heureusement, c'est la confidentialité du vote. Par contre, on voit quand même des gens ou des quartiers ou des catégories sociales qui ont été les destinataires de ces actions, et on le voit bien dans les résultats d'un bureau de vote, qui ont porté des gens, pareil quand on voit des manifestations, des gens qui émanent de telles régions. Donc voilà, on a un faisceau. Par contre, on n'a pas ce que les Américains appellent le smoking gun, le pistolet fumant. On dit, ah bah attendez, c'est vous qui teniez l'arme, c'est vraiment vous. Par contre, oui, on a des éléments où on le voit sur les sources d'information. Est-ce que le système fonctionne ? Moi, je pense qu'il est plus lent qu'on ne pense, mais plus profond qu'on ne pense. C'est-à-dire que c'est pas forcément je vous donne une information, vous vous levez comme un robot, vous allez voter. Par contre, ça contribue à colorer, à façonner, à polluer, moi c'est le terme que j'utilise, et à donner une saveur à l'information par rapport au relativisme. Le relativisme, c'est de dire, alors à chaque fois je les cite, mais à chaque fois ma mémoire me porte, il y a deux philosophes, enfin deux spécialistes de la psychanalyse, enfin de l'analyse, qui sont deux psychologues qui s'appellent l'effet Dunning-Kruger. À chaque fois, je n'y arrive pas à retenir leurs deux noms. Ce sont deux psychologues qui ont théorisé le principe de la surconfiance. Et c'est un concept d'ailleurs que j'évoque dans le bouquin qui est très intéressant. C'est des gens, moins vous avez une connaissance d'un sujet, plus vous êtes amené à en parler. C'est-à-dire que là où un professeur d'université... Non, mais là où un universitaire très spécialiste d'un domaine va vous dire « Ah, je ne peux pas me prononcer, que le gars, il a fait 30 ans d'études sur le sujet, il en mange matin, midi et soir, il a fait toutes les comparaisons internationales, mais il va être... » Enfin, pour être très clair, c'est ce qu'on a eu sur la pandémie. La pandémie, vous aviez des universitaires qui ont été toujours un peu sur des sujets où ils n'étaient pas aussi... Et vous aviez des gens qui absolument n'avaient aucune expertise, aucune compétence, machin, et qui, parce qu'ils avaient documenté, mais de manière assez hâtive et récente, une connaissance, avaient l'aplomb d'apporter des propos extrêmement, caricaturaux, mais qui étaient donc d'autant plus audibles que l'université, qui m'avait dit « oui, mais je pense qu'on ne peut pas résumer aussi simplement », etc. Donc un truc qui n'est pas du tout adapté à la société de communication moderne, et effectivement. Et donc c'est vrai que cette dimension-là, on a quand même vu des gens capables, et je reviens à mon sujet, d'agréger des communautés, quand votre source d'information, parce que le prix d'un journal, je regarde, là, j'ai les échos avec moi ce matin, c'est 2 euros, c'est 2 euros le quotidien, enfin voilà, pour avoir une information économique. Pour les gens, c'est pas très rigolo, mais donc dire ça intéresse, il y a forcément un filtrage économique, social, culturel. Et ben, quand c'est votre seule source d'information, je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas. C'est Médisée, la marquise de Sévigné. Hein, Médisée, il en restera toujours quelque chose, que ça ne sert pas à colorer un point de vue. Voilà. Et ça, c'est. Je peux pas le démontrer comme dans. Évidemment, on peut pas le démontrer comme d'un point de vue marketing. Par contre, là où on peut avoir un faisceau d'éléments, c'est ce qu'on voit dans les participations aux élections, on l'a vu dans des achats, on le voit sur des phénomènes culturels, où on voit des vrais clivages entre Paris, enfin les grandes métropoles et certaines régions plus rurales. Là, il y a de la géographie et de la statistique qui parle. Mais c'est de la statistique. Voilà. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que la promesse était quand même, avec les réseaux sociaux, nous n'avons, et contrairement aux médias historique, radio, télévision, vous n'étiez que les destinataires. Là où on peut voir l'efficacité de la campagne, c'est que les gens deviennent des producteurs. Et donc, la meilleure preuve pour savoir si vous avez été convaincu par les messages par lesquels vous avez été bombardé, enfin, en tout cas, vous avez été ciblé, comme c'était le cas de la promesse de Cambridge Analytica, je vais regarder ce que vous publiez. Et si vous publiez des choses qui font écho, vous reprenez, vous cautionnez, puisque vous relayez des informations que je vous ai fait parvenir, alors même que j'ai fait en sorte qu'elles soient frauduleuses, je me dis, a priori, j'ai gagné. Parce que vous allez utiliser votre crédibilité vis-à-vis de votre communauté, vos amis, votre famille, en disant, tiens, moi j'ai vu qu'il s'est passé ceci ou je pense que cela. Donc on a quand même un moyen de l'apprécier. Est-ce que ça va jusqu'à l'élection ? La seule chose, c'est qu'il faudrait le corréler l'émargement électoral, parce que si vous, toute la journée, vous avez dit « machin est un con » ou « truc est un génie », il est vraisemblable que si vous avez l'occasion d'aller voter, vous allez vous voter dans ce sens-là. Là où il y a une limite, c'est que l'expérience a montré, et c'est le taux de participation, que les plus enragés gens n'étaient pas forcément ceux qui allaient voter. Donc on peut parler beaucoup d'un sujet, mais pas forcément le traduire pour ce qui était votre question. Vous serez très convaincu, mais si vous décidez de ne pas aller voter, il n'y aura pas cette ultime traduction dans les journaux.
Bien, on va conclure ici. Donc on va à nouveau vous remercier. Et donc, si vous n'êtes pas convaincu que son bouquin est génial, c'est qu'il est, il est pas très bon.
En tout cas, voilà. Toutes les informations personnelles concernant le président Fournier sont évidemment, ne doivent pas quitter cette salle et sont totalement fausses. Merci.